Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 juin 2006 de 18h à 21h. En différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-vous bien ?
Vous croyez qu'on résiste par cette chaleur ?
Oh là là là, ça, c'est le solstice alors, on m'a dit.
C'est le solstice.
Il paraît que le solstice est néfaste.
C'est-à-dire qu'il y a
une grande marée. On dirait qu'il faut mais ça n'est pas une.
Il va y avoir la nouvelle lune du solstice. Oh là là,
une nouvelle lune, ça va nous changer un peu.
Et après, on retourne loin du soleil.
L'ancienne c'est un événement, le solstice, un événement maçonnique, toujours.
Je sais pas si c'est maçonnique, mais c'est un événement naturel.
C'est facho, le solstice. On va aller se mettre tout nu autour d'un menhir et on va danser en criant Yule.
Donc c'est la fête.
Ah non, c'est Yule, c'est à Noël qu'on crie Yule. Quand est-ce qu'on crie Yule ?
À Noël, oui. Yule, ça veut dire Noël.
Bon, alors donc ça va pas, faut pas tout mélanger non plus.
On a déjà entendu Serge de Bekech dans l'ordre d'apparition en scène, Victoria et notre divin marquis des Olmetta. Qui d'autre ?
Celui qui cause.
Patrick Goffman.
Ouais, mais encore.
On va entendre peut-être le Sanders.
Pour dire bonjour.
Par exemple, ça se fait assez couramment dans nos milieux.
Je fais tout de suite dans l'originalité, pour bien marquer le...
Alain Sanders. Un de mes amis, enfin lui on a pas beaucoup d'ailleurs, il faut bien dire, donc je pourrais presque dire mon ami.
Herkman Chatrian.
Oui. Ça c'est le Herkman du Chatrian que je suis, ou je suis le Chatrian du Herkman qui est.
La même bonne année.
Oui. Quelle bonne année d'ailleurs.
Très bonne année pour le Bordeaux notamment. Ouais.
Vous compte.
Plus grande.
Ouais. Et puis Yves-Marie Adeline.
Bonjour.
Yves-Marie, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à ce micro. Et puis, il fut un temps que je vous invitais couramment.
C'est vrai.
C'était avant que vous devinssiez démocrate. Et alors. Parce que maintenant il est devinssu démocrate.
C'est pas une raison pour se fâcher.
Mais en voyant ce qui se présente aux élections présidentielles, vous trouvez que ça fait sérieux ?
Mais c'est pas une question de sérieux, c'est que. Non, mais qu'est-ce que j'aurais d'autre comme moi pour faire connaître le
Oh, il y a aussi des moyens honnêtes de vivre. On n'est pas obligé d'être président de la République.
C'est pas une question d'être président de la République, c'est que c'est une élection royale, si j'ose dire, l'élection de la présidence de la République. Donc, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire connaître les idées royalistes et pour faire nos propositions.
Dans les esprits, moi, je vote Le Pen depuis 18 ans, depuis l'âge de 18 ans, pratiquement. Alors, comment je vais faire, là ? Parce que s'il y a un candidat royaliste, je suis obligé de voter pour lui.
Vous votez pour qui jamais trop. Pour moi-même, naturellement. Tour.
En faveur du roi.
Si je suis au deuxième tour, je continuerai de voter pour moi. Et sinon, royal, comme ça, on restera royaliste d'un tour à l'autre.
C'est pas bête.
Je vais vous dire.
Bonne famille.
Entre nous, je vais vous dire.
Ça suffit.
Non, mais on a des choses en commun, Ségolène et moi. On est d'abord parents de familles nombreuses. Et puisque vous choisissez.
Oui, mais enfin, on va pas rentrer dans les bétails, mais il y a quand même une légère différence. Donc alors quoi, parents de famille nombreuses et puis.
Et puis en définitive, qu'est-ce que vous préférez finalement, hein, parce que de la droite et la gauche, ça ne veut plus rien dire quand on en est là. Ségolène Royal ou Roselyne Bachelot?
Ah mais moi, alors je veux dire, je m'en fous d'une force. Vous pouvez même pas imaginer. Moi, je veux Le Pen, c'est tout. Et pas pour qu'il soit le chef. Pour.
Vous sortez des données, du problème tel que les énonce Monsieur Adeline.
Ah oui.
Il vous donne le choix entre Bachelot et Royal.
Ah oui.
Le Pen
ah,
avait sa place. Ça, c'est,
ben,
le...
Je préfère Bachelot, vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus vieille. Donc il mourira plus tôt et on
sera un peu condamné au travaux forcés.
Oui. Oh là là. J'espérais qu'on échapperait à, et que les auditeurs, surtout, on les laisserait se reposer de Ségolène Royal, mais non. Alors, profitons-en quand même pour rappeler qu'elle a été entartée il y a quelques jours et qu'elle porte plainte.
Ah, je veux dire. Oui, ça c'est parce qu'il y a des fraises dans la crème et que l'entartage officiel, c'est la crème fraîche seulement. Là, il y avait des fraises, alors
c'est
ça va pas.
Le gloupier a déposé la recette une fois pour toutes.
Et elle a maintenant 6 gardes du corps.
Oui.
Qu'elle a au demeurant fort agréable.
Ah oui.
Les gardes du corps.
Non, le corps. Oui,
mais il est bien gardé.
Mais je vais vous dire à quel point elle arrive sixième dans le classement des 100 filles les plus sexy du magazine FHM. Mais version anglaise. Alors je sais pas s'ils cuisinent les femmes comme la nourriture. Non, mais elle est devant Laetitia Casta qui est 67e. Alors il n'y a que les Anglais.
Parce que Laetitia Casta, c'est évident, tandis qu'elle, c'est une espèce de d'étang islandais travaillé par le soufre et les volcans.
Voilà. Ah non, bon. Quelle belle image.
Ben, je commence à me faire du souci parce que dans le précédent numéro du Libre Journal, François Brugnot lui-même vacille et écrit, on l'a même mis en intertitre, une femme qui met une jupe et non des pantalons pour monter à la tribune de l'Assemblée ne peut pas être complètement mauvaise. Voilà. Donc lui-même vacille. Alors c'est nous qui allons élire Madame Royal et pleurer ensuite.
Ça ferait une grande différence.
Alors, personne ne l'élira parce qu'elle n'ira pas au bout. Ouais, moi je prends les paris. Vous allez voir que Strauss-Kahn va lui casser les jambes, ça va pas durer très très longtemps. Mais oui, bien sûr, vous allez voir. Je connais ces gens-là. Mmh. Il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Ils vont l'accabler sous la rumeur.
Ah, c'est sûr, oui, c'est évident.
Voilà. Il y a tant de rumeurs qui pourraient circuler sur Strauss-Kahn que.
Non, Strauss-Kahn, il a été lavé par la justice. La savonnette à Vilain est passée par là. Je suis arrivé à le placer, je suis longtemps.
Et j'espère quand même qu'on n'ira pas raconter que Mme Royal a vendu les photos de son accouchement à Paris Match, qu'ensuite elle a dit qu'elle regrettait mais qu'elle n'a pas rendu l'argent.
Oui, mais ça se fait toujours. Le prince de Monaco faisait ça avec ses petits-enfants, donc on reste dans la royauté.
Et puis Marie-Antoinette, dont on va parler peut-être, aussi. Sauf qu'elle ne vendait pas de photos.
Elle ne vendait pas, attendez.
Mais je voulais quand même faire une remarque, c'est que le magazine que vous causez, le magazine anglais, là,
il y a une version française.
Si j'en crois...
il est abonné, ne vous inquiétez pas.
Si j'en crois à ce que Cresson disait des Anglais, ils sont assez mal placés pour juger du caractère...
Et je m'excuse de contredire Alain Sanders, mais enfin, placer Laetitia Casta 67e et Madame Royal 6e, c'est vraiment, il n'y a que des Anglais.
C'est ça, c'est des Anglais.
C'est une affaire de goût.
Et vous savez que j'ai parlé l'année.
Ah, le cheval. Les Anglaises aiment les chevaux, mais elles ne connaissent pas toujours le bidet.
Marc est fâché avec les chevaux.
Oui, là, ça y est.
Qui s'en réjouissent d'ailleurs plutôt dans l'ensemble. Le bruit court chez les chevaux que le marquis ne monte plus.
Ouf. Alors, ça a traversé toute la France.
Voilà, après des années et des années de monte, comme ça.
Ah oui.
Il a découvert que c'était pas confortable, un cheval. Vous m'auriez posé la question, je vous l'aurais dit depuis longtemps. Et j'ai parlé de la semaine dernière, c'est ça? J'ai parlé de la Société Générale.
Oui.
Cette banque qui donne des cartes de crédit dorées à des gens qui n'ont pas de compte chez eux. Et alors, je reçois une lettre que je m'en vais vous lire, mais pas de la Société Générale. Voilà, le mercredi dernier, vous m'avez ravi avec la Société Générale, à qui j'ai moi-même eu affaire. Alors, il raconte. Je passe mes vacances en Suisse. Je règle l'hôtel avec un chèque en euros Bosch de 6 000 et quelques. Ah ouais, en Suisse, non. Je rentre en France. L'andouille de service, auréolée de son bac plus 5 et de son titre de gestionnaire de patrimoine, me téléphone pour s'assurer que mon chèque était bien en faveur de l'hôtel. En quoi ça vous regarde, c'est ma vie privée. Peut-être, mais nous devons nous assurer qu'il ne s'agit pas de blanchiment d'argent sale. Alors d'abord, c'est pas fini, je vous donne la suite après, mais ce qui est quand même rigolo, c'est que On dit à la fille, disons, il a fait un chèque de 6000 euros en Suisse, il faut vérifier si c'est pas de l'argent blanchi. Comment elle pourrait faire? Elle téléphone au type. Allô, monsieur?
Oui,
c'est pas de l'argent blanchi. Non, non. Ah bon, merci. Voilà. Oui, donc, ça mérite effectivement
bac plus 5. Ça fait quand même beaucoup, 6000 euros. Hein.
Si, ça fait 40 000 balles.
Oui. Il est resté combien? Deux mois dans l'hôtel?
Mais non, un mois dans un...
Enfin, maintenant, on peut faire mieux en restant 15 jours.
À 150 euros la chambre.
Oui. Je vais encore m'attirer les foudres d'Alain Sanders, mais ça me rappelle furieusement ces documents qu'on remplit pour entrer aux États-Unis et où on garantit qu'on n'a pas l'intention de faire la révolution, de tuer le président, ni de commettre un massacre de masse.
Tu as raison de dire ça, mais c'est parce que c'est un... On s'en moque, on en rigole, on fait ce qu'on veut. C'est parce que c'est un pays où... Le serment existe. Ouais. Voilà. Si tu as menti, c'est grave. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pour cette raison-là. Oui, et ça fait toujours rigoler les gens. Je sais, parce que personne ne va mettre oui, je suis venu. Mais c'est pour cette raison-là.
C'est ça pour ça qu'ils ne peuvent pas garder un président plus de 4 ans. Parce que en cas de parjure, il peut être légal. Donc au bout de 4 ans, il ne veut plus.
Mais généralement, ils essaient pendant les 4 premières années d'être bien. C'est les 4 suivants. Quand ils sont réélus.
Je ne vais pas contredire Alain, au contraire, parce que l'affaire Clinton. Tout le monde croit en France et dans le reste du monde que c'est la gâterie de la secrétaire pour laquelle il est ennuyé. C'est parce qu'il a menti parce à qu'il ce a sujet dit, qu'il a été...
Ça n'a pas existé. C'est la seule raison. Alors les gens se disent, oh, c'était rien du tout, une turlute. Ben, c'était pour cette raison.
Parce qu'il a menti.
Alors...
Ils n'avaient qu'à pas l'embêter avec ça aussi. Ça, c'est la vulgarité américaine.
Je lis la suite du témoignage de notre ami, l'auditeur client de la Société Générale. Donc, ayant reçu cette question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'argent sale? Ayant répondu non, il envoie une lettre, j'envoie, dit-il, une lettre à cheval au président qui me renvoie à la même dame que vous. Il doit y avoir une femme chargée des emmerdeurs à la Société Générale.
Catalyse.
Échange de correspondance qui me permet enfin de trouver, rue de Sexe dans le 20e, le texte incriminé qui, bien entendu, ne me concernait en rien. Oui, c'est vrai qu'il y a un texte qui dit que si c'est plus de 5000 euros, on doit
vérifier.
Vérifiement. J'envoie une lettre annonçant que par représailles, je ferme mon compte et je retire le solde. Depuis, je reçois régulièrement des avis de débit pour frais de gestion de compte et des relevés bimensuels avec les intérêts correspondants. J'attends pour réagir que le montant justifie l'envoi d'un huissier. Pauvre France, voilà. Donc je vous dis, si vous cherchez une banque où on ne fait rien et où on vous enquiquine, la Société Générale vous tend les bras. C'est la Société Générale qui avait fait cette pub avec les grosses têtes qui disaient, les grosses têtes, enfin, disaient que votre argent nous intéresse.
Ouais. Je sais plus.
Il n'y a que notre argent qui
l'est. Et c'est le Crédit Lyonnais auquel chaque Français doit donner, je ne sais plus, 2 ou 3 000 euros pour boucher le trou des banksters. La formule est de Léon de Grelle, mais elle est pas mal quand même. Hein.
Alors donc pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, je rappelle que la semaine dernière, j'ai raconté comment mon compte ayant été soldé il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement, la Société Générale m'a fait parvenir une magnifique carte premier avec laquelle je peux faire toutes les folies de la Terre parce que je n'ai pas de compte en banque chez eux. Et donc, voilà, c'est quand même superbe. Bien, quoi d'autre
Je vous ai apporté des nouvelles du seigneur d'Hermouche. J'ai cru comprendre que vous étiez un fervent admirateur du seigneur d'Hermouche.
J'ai pas su ça. Il y a une information sur le seigneur d'Hermouche.
Mais oui, c'est dans le Figaro du 15 juin, j'ouvre les guillemets, l'instruction ouverte après les attentats de janvier 2004 contre Aïssa d'Hermouche, premier préfet ici de l'immigration, c'est pas vrai mais ça fait rien, est close et n'a pas permis d'en trouver les auteurs.
Bravo la police.
Pour mémoire, toujours nanti du titre de préfet, d'Hermouche n'en exerce plus les fonctions, ni dans le Jura où il avait été affecté, ni ailleurs. Commentaire du canard enchaîné, pas de minute, ni du libre journal. Ça a été une vraie réussite, cette histoire de discrimination préfectorale positive.
Tout ce que touche Chirac, de toute façon, ça finit en jus de boudin.
Ah, sauf le musée des arts primitifs, premier.
Il faut voir ça dans quelques temps.
Là, vous n'avez rien. Là, je vois, vous restez muet.
Non, j'ai dit oncle. J'ai fait une forme de commentaire.
Je vous en parlerai. Je suis invité le 4 juillet. Visiter.
Le 4 juillet, moi, je suis invité à célébrer l'indépendance des États-Unis avec mon ami Alain Sanders.
Je vous en parlerai.
Nous irons, comme chaque année, boire des boissons.
Boire,
voilà.
Au
Harris Boire.
Le marquis nous en parlera quand il se sera expliqué sur l'incarcération de Victor Emmanuel de Savoie, bien entendu.
Ah oui, dites donc, c'est votre ami, Victor?
Non, le fils, c'était mon copain, mais là, depuis qu'il est marié, on ne le voit plus déjà. Mais eh bien, je n'ai pas plus d'informations que ce que je vous disais hier, mais il semblerait quand même que c'est une très vieille histoire.
Et qu'il aurait il aurait
mieux fait de ne pas pleurer pour retrouver la possibilité de rentrer en Italie, parce que je pense qu'on l'attendait depuis un moment. On verra bien la suite. Hein. Parce que le train de vie est quand même... Bon, Marina Doria, son épouse, est une famille richissime. Bon, tout le monde est richissime, mais enfin quand même, il y a un tel train de vie qu'il faut quand même peut-être encore alimenter. Alors, je porte pas de jugement, mais je suis pas outre mesure étonné.
Avant, ils se poudraient les perruques, simplement, les rois.
Ça coûtait moins cher.
Ça coûtait moins cher, ouais.
Monsieur Aline Rican, hein, je le signale aux auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur.
Non, mais bon, moi, je défends...
C'est comme dans la marine.
Comme dans la narine.
On peut défendre le chef de la maison de Savoie, mais si c'est un proxénète, c'est un proxénète.
Non, mais moi, je défends des institutions avant tout.
Ah bah bien sûr, c'est évident.
Ma personne n'est rien, mon principe. Est...
Voilà.
Oui, je disais que c'est dans la narine. Il faut aller au bout des explications, parce que sinon les auditeurs qui sont pas au courant, ceux qui ne sont pas au courant, les rares, trouvent qu'on divague, que pas loin de la vérité d'ailleurs. Et donc dans la narine, quand on met une punition pour aggraver la sanction, on ajoute « et rit ». C'est vrai, oui. C'est absolument vrai. Alors c'est le capitaine de corvette, je sais pas où il doit être, bien capitaine de corvette ou je sais pas quoi, le bec, qui m'avait expliqué ça. Alors, par exemple, regarde insolemment son sous-officier et rit. S'endort pendant la garde et rit. Ou pendant le quart et rit.
Commandé pour mettre du chlore dans les latrines, il y a mis de la mauvaise volonté et rit.
Le mec, il était capitaine de crevettes.
Oui, je crois qu'il doit être quelque chose. Non, il est officier de marine.
Ah bon?
Mais c'est pas n'importe qui, attention.
Ah non, ça j'avais remarqué.
On va dire peut-être un mot de monsieur Galouzeau de Villepin. L'admirable Galouzeau de Villepin. Vous voulez dire quelque chose, Patrick, armé de votre journal favori, qui n'est pas le Libre Journal et je le regrette.
Si, eh bien si. Si, c'est le Libre Journal, parce que... Non, mais vous faites bien de tirer mon attention là-dessus, parce que c'est notre jeune chroniqueur sportif, un certain S2B, qui écrivait dans le numéro 380 du Libre Journal du 9 juin, sur une double page, qui était d'ailleurs parfaitement pertinente, même du simple point de vue sportif, il y a donc 3 semaines, que le Mondial 2006 ne sauvera pas la République, et, traduction de ce titre sensationnel, la diversion dont messieurs Chirac et Villepin espéraient bénéficier à l'occasion du Mondial et des exploits qu'ils attendaient de cette équipe qui a quand même pris 4 ans depuis sa précédente gamelle en Corée, n'aura pas lieu. Et bon, le dernier incident, on continue à aller de crise en crise. L'incident hier à l'Assemblée nationale, le fait que monsieur de Villepin soit déserté par sa propre majorité qui ne manque pas une occasion de le désavouer ou de le ridiculiser, eh ben ça confirme que c'était pas la peine pour monsieur Villepin d'aller à Clairefontaine, centre d'entraînement des Bleus ou des Black, comme disent d'autres. C'était pas la peine pour lui d'aller toujours au frais de l'État jusqu'à Stuttgart pour voir les voir faire match nul avec qui ? Avec la Suisse. C'était pas la peine pour monsieur Chirac.
Match nul. C'est comme au Parc des Princes.
C'est le Raymond Domenech de la politique.
Exactement. Eh ben, c'est ce qu'on lit aussi un peu partout. Et c'était pas la peine, j'en termine, pour les déplacements sportifs pour monsieur Chirac d'aller à Saint-Etienne le 7 juin, voir si c'est se casser la jambe. Et Zidane manquait un but.
C'est la fracture sociale.
Voilà. Donc, il nous arrive de nous tromper. Par exemple, quand on donne Monseigneur Tetamanzi comme le prochain pape, on s'est planté.
C'est parce que c'est un capitaine de corvette qui a fait.
Voilà. C'est un marin qui nous a donné le pronostic. On s'est planté, on l'a avoué, on s'en est excusé. Mais là, je suis assez fier, dans le Libre Journal du 9 juin, sur titre, l'ordinateur Dectech donne les black sortis en quart de finale. Ah, là, on va peut-être se planter par excès d'optimisme, parce que, bon, il y a cet ordinateur, il y a une société sur Internet de pronostics de football qui les donne sortis en quart de finale également, mais par l'Italie, et non plus par la Tchéquie.
Et en fait, c'est peut-être le Togo qui va les sortir.
Et c'est peut-être le Togo. Mais c'est pas sûr du tout. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que le Togo, l'équipe de football du Togo, a passé 10 jours sur 15 en grève pour le motif...
Des affaires de primes.
Patriotique suivant. Ils voulaient 125 000 euros de prime chacun. On a calculé que ça représentait la masse salariale totale du Togo pour un mois. Donc ils ont rabattu. Il y a eu des interventions du Premier ministre togolais, du président de la fédération de la FIFA.
La FIFA est intervenue.
Et donc ils se contentent de 70 000 euros. Alors moi je dis la chose suivante. Heureusement que ça n'est pas je ne sais quel ancien manager de l'Olympique de Marseille qui dirige l'équipe de France, parce qu'il serait peut-être tenté de tenter l'équipe du Togo pour obtenir la victoire par 2-0 ou 3-0. Non, c'est pas possible, ça.
Non, d'autant qu'il peut les battre sur le simple fait du règlement, puisque je crois qu'au football, on n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains. L'équipe du Togo, ils ne peuvent pas faire autrement.
Mais cela dit, Patrick, c'est beaucoup, 70 000 euros. C'est même pas ce que touche un Zidane en clignant de l'œil pour une demi-pub d'un millième de seconde.
14 millions l'année dernière.
Ouais. Voilà. Je peux dire un mot.
Donc c'est les prolos, les Togolais, c'est quand même des prolos du foot, quoi.
Tu as avoué que le livre journal s'était trompé en matière de papauté. Bah, ça nous apprendra à avoir affaire à des tireuses de cartes. Je vous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui désigne que par conséquent, il vaut mieux pas s'en mêler.
Oui, absolument, vous avez raison. Vous avez raison, Marquis.
Merci.
Heureusement qu'il y a Marquis pour nous rappeler.
C'est un peu le cas aussi pour l'équipe de France de football, parce que chacun sait que si Domenech opère sa sélection en se basant sur l'astrologie. Donc, s'il y a des astres, c'est la faute des astres.
Oh là là.
Ça, c'est bien. Ça.
C'est bien, ça. Gottman, je dépose.
Les grosses têtes vont nous le piquer. Silence de mort.
C'est la consternation.
Bien, alors Villepin donc a présenté des excuses.
Non, il s'est aplati. Bah,
c'était ça ou le duel, hein.
Ah, c'était, ça aurait été joli quand même.
Un duel avec Porcinet.
Ah bah oui, en plus l'aristocrate contre le.
Contre Porcinet. Vous savez que
contre
si il y a un vrai problème qui va se poser si la royale est élue comme l'espère notre ami Marie et qu'elle est obligée de faire un voyage officiel, un voyage présidentiel en Turquie et son mari, son concubin ne pourra pas entrer.
Non, ils se sont mariés.
Ils sont mariés depuis 2-3 mois.
Voilà, pour
éviter les problèmes de protocole.
Voilà, exactement.
Alors que la rumeur courait d'un divorce au
Parti. Ça fait rien,
Giscard nous avait fait le coup, Chirac nous le fait. Bon.
Ouais. Donc, divorcer, il se marie.
En tout cas, il ne pourra pas entrer avec elle, puisque la Turquie vient d'interdire l'accès de des écrans de télévision et de cinéma à Porcinet.
Parce que ça muait du sérail.
La bande.
Parce que c'est pas
de Porcinet, comment ça s'appelle la bande c'est Winnie l'ourson.
Ah, Winnie l'ourson, oui.
Et bien Winnie l'ourson dans sa bande, je sais pas, il y a un jeune homme ici qui pourrait peut-être nous enseigner dans l'équipe de Winnie. Un peu âgé peut-être.
Il y a un tigre qui s'appelle Tigrou.
Tigrou, Winnie l'ourson. Il y a Porcinet, qui est un petit cochon. Et la présence de Porcinet.
Piggy.
Animal maudit par Allah et par Si aussi d'ailleurs.
Ralouf.
Et a fait que le Winnie l'ourson n'est pas accepté à la télévision turque.
Oui, mais je te signale que les aventures de Winnie l'ourson, pour cette raison-là, sont déjà interdites dans certaines écoles anglaises de l'Islam Land de Londres.
J'ai vu dans, je ne sais plus s'il en présente ce matin. Ou
ah tiens, présent, j'en profite pour le signaler, c'est un quotidien, parce que j'ai beaucoup de messages d'auditeurs qui me disent depuis lundi, soit à présent, soit encore là, c'est un quotidien.
Ah oui, c'est un quotidien.
Par définition, donc qui paraît tous les jours, 5 jours sur 7, ce qui est la définition d'un quotidien en France. Voilà, soyez rassurés, ce n'est ni une revue, ni un bulletin, ni un mensuel, ni la bougie du sapeur camembert, c'est un quotidien.
Ni un décadère. Ouais. Et donc, j'ai lu que dans deux stades allemands qui étaient équipés de chapelles, parce que c'est des pays où on est assez facilement porté à la religion, les directeurs des stades avaient annoncé clairement que les chapelles seraient fermées pendant
tout le mondial
pour ne pas insulter les joueurs des religions qui n'ont pas de chapelle ou de mosquée ou de synagogue ou de temple ou de d'oignons, parce que ou de les champs d'oignons, parce que les adorateurs de l'oignon se réunissent dans les champs d'oignons.
À Kirchengarten et à Berlin.
Par mesure de compensation, certains temples protestants en Allemagne ont installé
des télés pour voir les matchs.
Voilà. Alors là encore, c'était dans le Libre Journal il y a 15 jours. Ouais. Religion de substitution, fausse religion, nous expliquait notre jeune chroniqueur sportif.
Voilà, donc personne ne veut parler des excuses de Villepin. Tout le monde s'en fout.
C'est pas excusé, c'est aplati.
C'est des regrets.
Oui, mais c'est élégant, ça avait un côté assez délié, répétition de corps de ballet.
Surtout cette fin de régime, je pensais qu'elle finirait dans le caniveau, mais elle finit un éclat de rire général. Enfin, il finit ce régime.
Est-ce qu'il est permis de dire du bien de Jean-Marie Le Pen dans ce studio?
Oui, mais avec modération.
Voilà.
Alors, vous pouvez des bonnes choses.
Nouvel Observateur, 14 juin. Je vois les guillemets. Le mystère et l'éloignement me servent. Quand je réapparais, je suis zéro. Et puis, encore plus intéressant, on se plaignait dans la revue de presse du Libre Journal 280 du fait que Le Point, possédé par Monsieur François Pinault, émit à la poubelle un sondage au terme duquel Jean-Marie Le Pen recueillait 22% d'opinions favorables et d'avoir dû aller chercher ce sondage dans le Daily Telegraph. Eh bien, rassurez-vous, l'amitié peut-être s'est renouée entre Monsieur Pinault et Monsieur Le Pen, puisque Le Point refait un sondage au terme duquel Le Pen a 26% d'opinions favorables, c'est-à-dire beaucoup plus que Chirac et Villepin, et beaucoup plus que lui-même en 2002, où il plafonnait à 16%.
Il va finir par être élu. Vous avez vos passeports, messieurs?
Il y a le maquis, on peut prendre le maquis.
C'était un vieux gag. C'était
Roger qui disait. Voilà. C'était avant, il disait, les gars, le jour où vous prendrez le pouvoir, moi je me tire dans le maquis.
Bien, et puis alors, il y a quand même une histoire.
Le marquis, non, dans le maquis.
Oui, mais c'est pour ça que j'enchaîne le marquis, il nous toise d'un air sévère, et on lit au-dessus de sa tête, vous pouvez toujours avoir tous les passeports que vous voulez, c'est la mine de sel, pour vous deux, et c'est moi le directeur.
Non, c'est pas, en réalité, il fait cette tête-là, parce qu'il a été invité à la grande fête de Le Pen pour ce,
les 50 ans de politique.
50 ans de politique, il est le seul.
Ça s'appelle un jubilé, même, peut-être.
Ouais. Mais
d'ailleurs,
c'est
son
jubilé.
T'es invité,
toi ? Non. Moi non.
Mais ils n'ont pris
que des aristocrates.
Alors, vous avez sans doute constaté que depuis quelques mois, la RATP rénove tous les guichets des stations et y installe des distributeurs automatiques de billets. Ces nouveaux guichets affichent désormais une pancarte indiquant accueil et information, c'est-à-dire concrètement qu'ils n'assurent plus la vente des billets. Voilà. C'est formidable. Bonjour monsieur, vous voulez un renseignement ? Oui, où est-ce que je peux acheter un ticket ? Dans la machine là-bas, mais j'ai pas de monnaie. Ah bah, c'est pas mon problème. Bon,
je suis encore obligé, excusez-moi, d'en remettre une couche. J'ai voulu être moderne, comme je prends de l'âge, je suis aux aguets des occasions de faire moderne. Alors, j'ai écrit pour avoir un pass Navigo. Alors, pour nos auditeurs qui sont pas revenus souvent de Tokyo, donc ça remplace la carte orange et c'est une espèce de machin électronique qu'on valide électroniquement. Alors, je remplis un dossier, j'envoie des photos, j'attends 3 semaines et ce matin, je reçois mon pass Navigo et je m'y appelle Patrick, P-A-T-R-I-K. Ils peuvent pas écrire Patrick proprement.
Mais ça sert à rien.
Parce qu'on est là pour ton nuque.
Ça se prononce pareil.
C'est la prononciation qui compte. Tu m'en sais, ça ajoute rien. Goffman, alors.
Tu as pris le poste Navigo au moment où on ne peut plus avoir 20% dans tout le groupe Flow. Oui, c'est fini, ça.
Bravo, alors.
20%, c'est très important sur un plateau d'huîtres avec le poste Navigo.
Voilà. Donc, félicitations à la RATP. Comment on disait, la RATP, c'était quoi déjà ?
Reste assis, t'es payé.
Reste assis, t'es payé.
Oui, les PTT, petit parvo tranquille. Oui, voilà.
Et puis alors, toujours dans la série Soyons cohérents, notre camarade, notre ami, Maud Marin, avait fait une demande pour devenir magistrat. Parce que comme elle a été... Vous connaissez l'histoire de Maud Marin, tout, je suppose. Maud Marin était une femme dans un corps qui était plus ou moins un corps qui ressemblait à un corps d'homme, mais qui, bon, donc elle était affectée d'un ce qu'on peut appeler
un handicap,
une malformation de naissance. Et elle a fait, quand elle a été en âge de le faire, elle a fait régler ça par la chirurgie. C'est pas du tout un truc de pervers, c'est un accident génétique, je sais pas, enfin. Donc elle est devenue, elle a changé de nom, elle est devenue Maud Planchard, dit Maud Marin. Et ça fait toute une histoire à l'époque. Bon, et puis finalement, elle était devenue avocate, ce qui est, étant donné son histoire personnelle, c'est une réussite extraordinaire. Tous ces faux culs qui passent leur temps à nous expliquer qu'il faut donner les chances de réinsertion, qu'il faut permettre aux jeunes des banlieues d'accéder. Bon, là, ils avaient un cas extraordinaire d'une femme qui avait connu une véritable tragédie humaine, quelque chose d'indescriptible, qui a été battue, violée, torturée, qui a été enfermée, qui a été séquestrée, qui a été prostituée, qui a été... Elle est arrivée à s'en sortir simplement par le courage, l'intelligence, le travail. Elle est devenue avocate, elle a écrit des bouquins qui sont magnifiques et extraordinairement émouvants.
Des témoignages.
Ouais, des témoignages, et elle est arrivée à vaincre cette destinée qui était au départ quand même pas vraiment tiré le bon numéro. Hein. Et naturellement, tous ces braves gens n'ont rien eu de plus pressé quand elle est devenue avocate que de la virer. Parce que vous comprenez, dans nos milieux, ça fait pas chic d'avoir un monsieur qui est habillé en dame, ou une dame qui était un monsieur.
Alors qu'ils portent la robe.
Surtout de la part d'avocats qui portent la robe.
Et qui passent leur temps à nous bassiner avec leurs histoires d'égalité des sexes et de, encore une fois, de réinsertion et de patin couffin, etc. Ça, pour le discours, ils sont très très clients. Mais quand ils se sont passés aux actes, il n'y a plus personne. Et elle a fini par être virée de Bobigny. L'essentiel, d'ailleurs, du motif de cette radiation du barreau, c'est qu'elle a dit la vérité.
Eh oui, non.
Elle a dit la vérité sur ce qui se passait à Bobigny, et notamment sur le régime de terreur que la racaille faisait peser sur les magistrats. Et elle a raconté des scènes hallucinantes dans ce bouquin, où elle raconte comment les beurs, notamment, traitent les magistrats instructeurs, qui rampent littéralement devant eux, parce qu'elles sont des femmes la plupart, et les gars leur disent, toi, quand tu sors, je vais te niquer. Et elles sont terrorisées.
Bobigny dans le 9-3.
Oui, Bobigny, c'est le 9-3, c'est pas le 7-7, faut pas tout mélanger. Et donc, on l'a dégagée. Bien, alors elle n'avait plus le choix, elle ne pouvait plus exercer la profession d'avocat, et donc elle a demandé à exercer la profession de magistrat. À l'époque, c'était M. Perben, homme illustre, d'illustre mémoire. Perben, c'est quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il... Il n'a pas beaucoup de, il n'a pas beaucoup de susceptibilité. Perben, il était, ministre de la justice, garde des Sceaux, ce qui fait de lui un des tout premiers personnages de
l'État. Les trois premiers.
Voilà. Chirac lui a dit, tu te barres, je veux plus de toi, à cette place-là. Pourquoi, j'en sais rien, j'ai un vague soupçon, mais je ne le dirai pas. Et alors il a dit, c'est embêtant parce que je ne serai plus ministre. Alors, ben non, tu ne seras plus ministre. Mais pas un petit poste de rien du tout, pour rester ministre, quand même avoir une voiture avec un chauffeur, puis un logement de fonction. Tout. Non, il n'y a plus rien. Un tout petit truc, un secrétariat d'État, n'importe. Bon, je te file les transports.
Ouais, garde des Sceaux, les transports.
Ah, c'est gentil, ça. Et alors il est passé de garde des Sceaux à ministre des Transports. C'est extraordinaire. Il vidait les pissotières et maintenant il s'occupe des... Bon. Et quand il était garde des Sceaux, alors il avait répondu à une interview dans Têtu. Alors, Têtu, je ne vous dis pas ce que c'est.
C'est là que Ségolène Royal vient de s'épancher.
Oui.
Et de se déclarer.
Se déclarer pour le... Ségolène,
une fois de plus.
Absolument.
Une fois de plus pour l'homoparentalité, le mariage gay et tout le tremblement.
Il faut rappeler que c'est le journal de M. Pierre Berger quand même.
Elle a dit qu'elle préférait qu'on dise union plutôt que mariage.
Ah, bah ça change.
Divine pudeur, ça change tout.
Union. Alors Perben, donc, avait dit à Têtu. C'est l'étu, en fait.
Tu l'es.
Je veux stigmatiser avec force. Ils emploient des mots, ils ne savent même pas ce que ça veut dire.
Ça plaît dans Têtu, ça.
Je veux stigmatiser avec force tout propos injurieux, diffamatoire ou haineux lorsqu'il est fondé sur le rejet de l'autre. J'envisage de lancer une enquête pour que nous puissions bien comprendre les problèmes concrets que rencontrent les signataires du PACS. Moi, je m'en fous des problèmes de signataires. Ça vous intéresse?
Non.
Et vous? Ça vous intéresse, c'est le cas ici?
Non, mais apparemment, généralement, les problèmes des autres nous...
Il voulait lancer une enquête. Alors, il peut toujours lancer tout ce qu'il veut, d'ailleurs, pour ce que ça me concerne. Et en tout cas, alors il expliquait que finalement, tout ça est très bien. Quoi. C'est très très bien de marier les gays... Il n'y a plus que les curés qui veulent se marier maintenant, d'ailleurs.
S'ils s'aiment, comme disait Louis Morin.
Voilà. Et l'adoption et l'insémination artificielle sont actuellement interdites aux couples homosexuels.
Bon, ils peuvent s'amuser.
Oui, on croit rêver. Non, on croit vraiment rêver.
Hein.
Vous imaginez Jacques Berger, Pierre Berger se faisant faire une insémination artificielle pour avoir un tampon. Mais ça, non,
ou Delanoé en mère porteur.
Oui. La Gay Pride approche, Serge. Alors, on sait pas encore si c'est le Marquis ou moi qui allons rendre compte de l'événement, mais en tout cas, on a un dessin de Miège formidable qui montre deux gars qui sortent de la Gay Pride en disant, ah, quand même, les homos ont le droit d'adopter des enfants. Et il y a un autre qui fait, bah ouais, peut-être, mais toujours pas le droit d'allaiter, hein. Merci, Miège.
Il a du talent, ce David. Alors, Chirac m'a dit, une réflexion mérite d'être menée sur plusieurs points, notamment de l'ordre du juridique et du fiscal. Je pense à l'évaluation des dispositions prises en cas de rupture du Pax. C'est-à-dire, ils sont tellement tordus qu'ils font une loi qui permet à deux personnes...
Vous en parlez à votre aise. Serge, vous êtes marié avec une femme depuis 50 ans, mais vous n'êtes pas dans le cas de ces deux femmes qui viennent de divorcer. Il y en a une qui a été condamnée pour homophobie.
J'ai pas épousé à 10 ans quand même, ma femme. Je suis demeure parfaitement orthodoxe. Pas 50. On va fêter nos 38 ans de mariage dans une semaine. Je vous le dis, tiens, si vous pensez au cadeau. Puisque vous m'en parlez, mon cher Patrick, avec tout le fric que vous avez. Et alors, donc il avait dit, il ne serait pas inutile de lancer une enquête complète sur le sujet, comme permet. Je ne suis pas sûr qu'il soit opportun de toucher au Pax, avait-il dit. Je n'ai pas connaissance de difficultés particulières. On est dirigé par des crétins, je vous dis, ça c'est évident.
Non, c'est plus grave que
hein, c'est plus grave, oui.
Et ce gars-là veut être maire de Lyon à la place de Golnisch.
Il veut être maire de Lyon, oui.
On rêve.
Alors donc, c'est ça. Il avait fait ce grand truc. Et Maud Marin se dit, bon, il est contre l'exclusion. Il est contre l'exclusion des messieurs dames, des dames messieurs, des messieurs messieurs, des messieurs messieurs, des dames à dames, etc. Tout ça. Donc, moi, je peux peut-être arriver à me faufiler là-dedans. Moi qui suis un accident naturel réparé. Et donc, elle a demandé à devenir...
Magistrat.
Et alors, la réponse est venue par un arrêté ministériel, s'il vous plaît, qui dit que non, mademoiselle Maud Planchard, candidate au concours de recrutement, n'a pas adressé les pièces exigées pour la constitution du dossier de candidature. Alors c'est vraiment des falsos, parce que la vérité, c'est que Maud Planchard, elle est née, elle s'appelle Maud Marin, mais elle est née, je ne sais pas son prénom de garçon, mais elle s'appelait, mettons, Pierre. Donc ses papiers sont établis au nom de Pierre. Est-ce que vous me suivez? Quand on lui demande de fournir son identité, elle produit des papiers au nom de Pierre. Alors elle dit, vous ne pouvez pas vous appeler Pierre puisque vous vous appelez Maud. Donc le dossier n'est pas correct. Donc on vous refuse. Alors ils ne disent pas, on vous refuse pour ça. Ils disent, on vous refuse parce que
le dossier n'est pas complet.
Il n'est pas idoine. Et le directeur de l'École nationale de la magistrature, c'est ce type qui forme des magistrats incompétents, dit, j'ai le regret de vous faire connaître, conformément à la décision de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu'il n'a pas été possible de donner une suite favorable à votre demande d'inscription au concours de recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, etc., etc. Et alors, élégance ultime, vous voudrez bien apposer sur l'une des deux ampliations ci-jointes la mention « Pris connaissance le » suivi de la date et de votre signature, et m'en faire retour dans les meilleurs délais.
C'est-à-dire,
allez vous faire foutre,
mais voilà que j'ai réception.
Soyez gentil de me signaler que vous avez bien compris la leçon. C'est quand même monstrueux, non? C'est pas des crapules, ces gens-là? Qui portent tous leur cœur en bandoulière, ils sont tous sans arrêt à célébrer les mérites de la...
Ça peut être symbolique, ça.
C'est vraiment des sales gens. Oui, c'est moi, le vieux facho, qui m'indigne de ça.
Mais est-ce qu'elle n'est pas de droite, elle aussi? Parce que
il faut dire, ça aide pas, ça, c'est sûr. Quand on lit ces bouquins...
Elle cherche ses ennuis, hein.
Ouais, elle prétend que... Elle prétend, pratiquement dans un petit livre, elle prétend que d'une certaine manière, dans le 9-3, il y aurait une majorité de délits commis par des gens qui ne sont pas des autochtones. Des trucs comme ça, quoi. Enfin,
ouais.
Bon, c'est pas très sérieux, c'est vrai, mais...
Puisqu'on est dans les imbécilités...
Voilà. On y reviendra sur l'histoire de Maud Marin, parce que...
C'est...
Alors, accessoirement, comme elle n'est plus avocate et qu'elle n'est plus magistrate, elle n'est pas magistrate, de quoi elle vit?
Voilà, c'est ça. Bonne question.
SDF, elle a droit.
De ses piges au Libre Journal.
Oui, ah ben, effectivement, avec ça.
Puisqu'on est dans les imbécilités, je réponds, comme j'ai parlé du Saint-Esprit, on me dit, je ne savais pas que le Saint-Esprit se manifestait à l'église gallicane où l'on baptise des animaux. Alors je dis aux crétins qui ont envoyé ce mot que on ne baptise pas les animaux, on les bénit, et comme d'autres ont béni les canons, les bateaux, les voitures, les frigidaires.
Les motos, mais, les Harley Davidson.
C'est-à-dire les seules motos. Nous n'avons jamais baptisé aucun animal. Et ça, c'est un truc, les journalistes, pour discréditer l'affaire, disent toujours, baptise les animaux. Alors monsieur, merci d'avoir
bien investi. C'est une bénédiction.
Ouais, c'est une bénédiction.
C'est une ânerie, il peut se faire baptiser.
Oui, c'est une ânerie, voilà. Merci de m'avoir laissé.
Et qui relise Francis Jamme, prière pour aller au paradis avec les ânes.
Voilà. Merci de votre secours.
Je signale que j'ai sous les yeux un livre fort intéressant de mon excellent camarade Bernard Anthony, Devoir de réponse à Marine Le Pen, sur la foi catholique et la République, et à Philippe de Villiers, L'islam et la police de la pensée. Mais c'est, il est bien le bouquin. Moi, je m'attendais un peu à
un pamphlet. C'est pas le cas, non.
Pas du tout, du tout.
C'est un très bon livre, très structuré, très motivé. C'est bien.
C'est pas du tout désagréable à l'égard de Marine.
Bon. Au contraire.
C'est même plutôt flatteur, il lui reproche d'être républicaine.
Donc, il n'y aura ni duel, ni excuse.
Non, ni duel, ni excuse, ni regret. Non, non, elle
est... bien Marine avec le sabre d'abordage.
Hein? Mais oui, c'est vrai qu'elle est républicaine. Moi, j'ai l'impression aussi, bon, il paraît que c'est légal en France, donc on va pas...
C'est pas qu'il est légal.
Le duel?
D'être républicain.
Ah oui, d'être républicain.
Ouais. Bien, on va peut-être avoir au téléphone... non, pas tout de suite, donc il faut attendre, parce que là, on appelle loin...
Oui, ça prend plus de temps.
Serge, parce que j'ai oublié, et c'est la fête de la musique, et j'aimerais signaler aux gens que ça intéresse, et ça doit intéresser parce que c'est très joli, très beau, les petits chanteurs de Saint-Louis qui chanteront la petite messe solennelle de Rossini le vendredi 30 juin à 20h30 en la basilique Sainte-Clotilde.
Ah, oui,
et on peut réserver aux endroits habituels, dont la FNAC, par exemple. Voilà. Petits chanteurs de Saint-Louis,
la petite messe
est très belle de Rossini. Alors, en plus, les petits chanteurs, c'est super. Voilà.
Alors que donc, les feignasses qui tapent sur des tam-tams pendant toute la nuit jusqu'à pas d'heure, c'est une idée de moi. Et la légalisation du cannabis, c'est également une idée de moi. Et vous voulez voter royal, monsieur Adeline?
Je tiens à propos de fête de la musique, je rappelle que ce soir chez la mère agitée 21 rue Campagne Première, il y a un orchestre de jazz manouche.
Ah, ça c'est beau, c'est...
Alors le jazz c'est magnifique, le manouche c'est très bien, et le jazz manouche c'est super, superbe. Super extra. C'est presque aussi beau que le country music.
Ah bah c'est très proche du western swing.
Voilà.
Tu crois pas si bien dire.
Bien sûr.
Oui, oui, c'est très proche.
Sauf qu'ils n'ont pas de...
Si, c'est ça, oui, ou Habitat Baudelaire.
Métro Raspail.
Ouais, c'est ça, 21. Nous avons quelqu'un au téléphone. Ah, alors j'explique de quoi il s'agit. J'avais reçu à ce micro, téléphoniquement, il y a quelques semaines, monsieur l'abbé Anthony Secada, qui a fait tout un travail sur la validité des sacres, enfin des sacres d'évêques selon le nouvel ordo, validité qu'il conteste. Et il proposait de répondre de participer à un débat. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vois entrer monsieur l'abbé. Entrez, monsieur l'abbé, je vous en prie.
Ah, ok.
Bonsoir.
Voilà. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un veut laisser sa place à monsieur l'abbé pour qu'il puisse participer éventuellement au débat?
Oui.
Je sais pas, voilà. Alors, monsieur l'abbé Secada, donc je disais que vous aviez exposé votre position sur la validité des sacres, et je vous avais dit que je vous rappellerais pour vous interroger sur les réactions qu'avait suscité votre travail.
Oui. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de réactions. C'est presque nul, les réactions. J'étais assez... c'est assez surprenant pour moi. Il y a quelques réactions sur l'Internet, les blogs, les bloggers, les... mais pas de choses sérieuses. Effectivement, presque rien. Il y a quelques petites objections, mais effectivement, on n'a pas essayé de faire une réponse sérieuse.
Mais aussi bien de la part des officiels de l'Église officielle, de l'Église, si j'ose dire, que des fidèles, vous n'avez pas de réaction du tout. C'est-à-dire que ça, c'est, le sujet ne paraît pas susciter d'interrogation.
Non, pas du tout. Et aussi, c'est aussi surprenant pour moi parce que vous savez, le frère traditionnaliste de le monastère dominicain d'Avrier, qui a écrit un article en faveur de la validité du nouveau rite de la consécration épiscopale, et il n'a pas encore aussi répondu. C'est un peu surprenant pour moi.
Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse pour les auditeurs qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas à l'écoute quand vous êtes passé la première fois, de résumer la position qui est la vôtre?
Oui, oui. Chaque sacrement, tout sacrement comporte une forme qui produit l'effet du sacrement. Par exemple, pour le sacrement de baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on change dans une façon substantielle la signification de la forme, le sacrement est rendu invalide, c'est-à-dire il ne marche pas, entre guillemets, hein, et il ne produit pas l'effet du sacrement. Et donc, Pie XII a déclaré, pour dans une façon très très précise, pour les saints ordres, quelle doit être la signification de leur forme. Eh bien, il y a trois ordres majeurs, diaconat, presbytérat et épiscopat. Et Pie XII a enseigné que chaque forme doit contenir deux choses. Signification de la grâce du Saint-Esprit et le pouvoir de l'ordre conféré. Et donc, pour la question, après le Concile Vatican II, Paul VI a changé les formes pour la plupart des sacrements. Et en 1968, il a changé, tout à fait changé, la forme pour la consécration épiscopale. Et dans mon étude, j'ai fait une démonstration. J'ai démontré que il a changé la forme dans un sens où il a enlevé la signification de le pouvoir épiscopal. Mm-hmm. Et donc, les conséquences, et à mon avis, les consécrations qui ont fait avec ce rite sont donc invalides.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est ce qui vous donne le crédit, je dirais, enfin crédit, ce qui vous permet de vous exprimer là-dessus, c'est que vous n'êtes pas un simple amateur de l'histoire de l'Église ou un simple quelqu'un qui s'intéresse comme ça par curiosité. Vous avez quand même quelques raisons d'exprimer une opinion éclairée sur la question.
Oui, je suis professeur de théologie sacramentale morale à Floride, et aussi pendant des années j'étais une étudiant de questions liturgiques, questions de l'histoire de la liturgie, etc.
Vous avez été formé à Icône?
C'est-à-dire j'étais dans le temps un séminariste du archidiocèse de Milwaukee, mm-hmm. Au nord de Chicago. Et j'ai reçu mon diplôme en théologie là, et je suis allé chez les moines cisterciens, et ordre assez conservateur, et depuis je suis allé à Icône, pour finir mes études. Et j'étais ordonné en 1977 par Mgr Lefebvre. Mmh.
Comment expliquez-vous, vous, le refus ou l'absence de réaction? Moi, je dois dire que j'ai vu en France, dans le milieu qui a écouté notre émission,
oui,
et qui a lu mon journal, il y a eu trois sortes de réactions.
Oui.
Une partie disent c'est extrêmement intéressant, c'est grave, c'est une vraie question, elle mérite débat. Une partie dit c'est pas sérieux, c'est un travail qui ne repose que sur une mauvaise compréhension du travail qui a été fait par les adaptateurs,
oui,
par les créateurs du nouveau rite. En fait, on a pris dans les rites orientaux des paroles qui ont remplacé les paroles de l'ancien rite latin, et donc la validité est assurée par la pérennité du rite oriental.
Ouais.
Mais il y a une majorité de gens, alors là notamment dans les milieux proches de la fraternité,
ouais,
proches des fraternités d'ailleurs, ouais, une majorité de gens m'ont dit, écoutez, c'est pas une question dont on débat, c'est trop grave, ça sème le trouble dans les esprits, ça sème l'inquiétude, ça sème le doute, et donc il faut pas parler de ces questions-là. Moi, je crois qu'il faut parler de tout, c'est mon opinion de journaliste, mais est-ce que vous avez rencontré, vous, les mêmes objections?
Oui, pour la deuxième objection, mon réponse est très 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 simple. Il faut réfuter mon cas. Oui? Et à mon avis, les principes, on commence avec les principes dans la théologie sacramentelle qui sont très très clairs. Très clair, et mon argument, je crois, est très très clair, et il faut le réfuter avec une avec des citations des rites orientaux, etc., etc. Mais on ne fait rien, on ne fait rien. Et donc pour le troisième cas, pour la troisième position, il faut examiner cette question précisément parce que c'est très très grave et les conséquences sont très très graves pour la prêtrise, pour le sacerdoce, pour l'avenir de l'Église catholique. Parce que Mgr Lefebvre lui-même a essayé de sauver la prêtrise, le sacerdoce catholique. C'est le but de l'apostolat de Mgr. Donc, il faut vraiment examiner cette question. À mon avis, Mgr Lefebvre était un peu, après quelques années, était assez, comment dire, il y avait une déception à propos de cette question.
Alors, bon, on m'a dit que Mgr Lefebvre avait eu effectivement cette position un certain moment, et ensuite il est revenu en disant qu'il avait été convaincu que finalement les rites orientaux avaient bel et bien été réintégrés, et donc que l'attribution, enfin le sacre des évêques était, oui, était valide.
Oui. Dans l'année 1982, j'ai entendu dire d'une nouvelle étude sur la question de le nouveau rite à la consécration épiscopale fait par membres de la fraternité dans le district allemand de la fraternité, l'abbé Bissig, l'abbé Baumann, mm-hmm, l'abbé Schmidt-Berger, etc. Et donc l'année suivante, il y a un prêtre américain qui a parlé avec Mgr et qui a demandé à Mgr, maintenant, est-ce que vous avez changé votre position? Et Mgr Lefebvre, donc, il a dit que oui, apparemment, c'est valide maintenant. Et il a indiqué l'abbé Schmidt-Berger, et l'abbé Schmidt-Berger disait que oui, c'est la nouvelle forme et des rites orientaux. Mais il y a une chose assez intéressante. J'ai lu dans l'internet un document écrit par une ancienne séminariste de Salzkofen. C'est la fraternité, le séminaire de la fraternité Saint-Pédis en allemand. Louis a demandé à le supérieur du séminaire de avoir la permission d'examiner le dossier sur la question de nouveau rite. Et bien, c'était assez intéressant cette quand le nom de séminariste était Thilo Stopka. Et effectivement, dans le dossier, il a trouvé une étude de quelques lignes, c'est tout. Et il y a trouvé aussi un texte qui vient de Rome sur la question avec une transcription de rites orientaux qui a en effet réfuté tout le cas pour la validité de la nouvelle rite de la consécration épiscopale. Donc, je suis convaincu que Monseigneur était déçu.
Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre cette démarche ou vous abandonnez ce travail? Quelle est votre attitude devant l'absence de réaction?
En tout cas, j'ai l'intention de continuer un peu, mais pour la recherche, pour la grande question de la consécration épiscopale du nouveau rite, il faut en tout cas continuer d'examiner la question de faire la recherche. C'est très important.
Et c'est une question un peu bizarre que je vais vous poser parce que vous n'avez pas forcément la réponse, mais étant donné la connaissance que vous avez du sujet, est-ce qu'il vous paraît vraisemblable que l'absence apparente au moins d'intérêt que manifeste la fraternité Saint-Pédis à l'égard de cette question, est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait être lié au fait qu'on est en période électorale, si j'ose dire, pour désigner le futur successeur de Mgr Lefebvre à la tête de l'Institut?
Moi, je ne suis pas sûr. Peut-être le silence, c'est une question de... par le silence, on admet que j'avais fait mon argument dans un sens bon. Ça, ou peut-être ils sont devenus des trappistes avec le vœu de silence. Ça doit être très étrange.
On n'a pas été informé directement, mais c'est possible aussi. Ce serait pas mal d'ailleurs. Les trappistes, c'est une belle vocation.
Ah oui, oui.
Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir pris la peine de nous répondre. Moi, je persiste à dire que c'est une question qui mérite qu'on s'y intéresse sérieusement et qu'on en parle. Est-ce que l'abbé Herry veut intervenir ou est-ce que vous préférez prendre... Enfin, je sais pas si vous avez, je suppose que vous aviez connaissance de cette question.
De la question, oui. De l'étude de monsieur l'abbé, pas particulièrement. J'ai pas étudié la théologie ni l'histoire de ces rites de consécration épiscopale, mais pour le point de la position qui était celle de Mgr Lefebvre, oui. Je voulais juste apporter cette précision. Quand Mgr Lefebvre avait signé un protocole d'accord avec le cardinal Ratzinger le 5 mai 1988, oui. Il y avait un paragraphe concernant tous les rites, intégralement tous les rites des sacrements selon Paul VI, mm-hmm. et qui était reconnu par Mgr Lefebvre comme valide. Oui. Il n'y avait pas d'exception pour la consécration épiscopale. C'était donc sa position d'en reconnaître la validité officiellement. Mm-hmm. On sait qu'il a que ces accords, ce protocole plus exactement du 5 mai 88 n'a pas eu de suite. Mais c'est pas pour cette raison. Mgr Lefebvre ne s'est pas rétracté de ce qu'il avait signé là. Il a seulement refusé de signer un papier supplémentaire où on lui demandait de reconnaître ses erreurs sans dire lesquelles. Mm-hmm. Mais donc, ça veut dire que Mgr Lefebvre était convaincu de la validité de ces sacres épiscopaux. Et c'est pourquoi, ayant tranché, si je puis dire, la question, peut-être pour des raisons à la fois théologiques, à la fois prudentielles, parce que là, si les sacres épiscopaux sont plus valides, on n'est plus dans une thèse comme le cédévacantisme, que Mgr Lefebvre aussi avait récusé, mais là on est dans l'ecclésio-vacantisme. Donc ça va très loin. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut examiner. Je suis tout à fait d'accord, et je crois même, mais je ne veux pas vendre la mèche, mais je crois que mon confrère l'abbé de Tannouard prépare un numéro d'objection, le prochain, sur ces questions.
L'article. Il y a un article écrit par un frère bénédictin américain, le frère Ansgar Santagossi.
Oui.
Je parlais quelquefois avec le frère Ansgar Santagossi, mais l'article de le frère Ansgar parle. Effectivement, c'est assez bizarre pour moi parce qu'il critique l'ancienne forme de Pie XII en disant que bon, c'était vague, etc. Les termes dans la forme n'étaient pas clairs. Pour moi, c'est un peu bizarre. Il ne cite pas des théologiennes morales. Il n'avait pas cité des textes orientaux. Et aussi, si on ne peut pas utiliser cet argument de le bon frère Ansgar Santagossi, parce que si le forme essentielle du sacrement manque un terme pour le potestas ordinis, pour le pouvoir de l'ordre, c'est fini la validité. En conséquence de tous les principes de la théologie catholique pour les sacrements.
Oui, mais tout le problème est de savoir quelle est la forme essentielle. Voilà. Alors, c'est une question qui reste débattue dans l'Église, qui n'est pas tranchée définitivement concernant le sacre épiscopal. Voilà. Donc après, on peut toujours dire que ça manque, mais comme ça manque à quoi, on n'a pas dit à quoi, on tourne en rond.
Bien, je vous remercie, monsieur Labéry, d'avoir pris la parole de façon totalement imprévue, je le précise. Vous n'étiez pas venu pour parler de ces questions, mais ça permet de montrer qu'il y a une amorce de discussion, de débat, et c'est tout. Il peut en sortir que du bien, j'en suis convaincu. Monsieur Labéry Sécada, je vous remercie beaucoup.
Okay.
Je me permettrai de vous rappeler dans quelques temps pour voir si les choses avancent et si enfin quelqu'un accepte de vous porter la contradiction et d'engager avec vous ce qu'on appelle la disputation. Okay. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Labbé.
Merci, monsieur Labbé, monsieur de Becatch.
Merci.
Au revoir,
monsieur Labbé.
Bon, Miami. Mais nous la quittons à Miami.
Ah, elle est très bonne aussi, celle-là. Oui, c'est bien. Il est brillant.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Je sais pas si je vais le garder parce qu'il me fait de l'ombre un peu. Ah, monsieur l'abbé, n'abandonnez pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre casque. On est particulièrement pacifique à l'endroit des prêtres.
Est-ce que ça chauffe un peu?
Oui, alors vous avez aussi publié quelque chose, mais qui a eu plus de succès, si j'ose dire, dans les conséquences immédiates, parce que il semblerait que vous ayez été entendu sur la question de qui est un peu une question théorique, la question de l'excommunication ou la prétendue excommunication.
Voilà. Alors, en effet, la prétendue excommunication de Mgr Lefebvre est un point tout de même qui est difficile, parce que à chaque fois que les prêtres traditionnalistes de la fraternité ou dans la mouvance de la fraternité Saint-Pilis essayent de faire un apostolat, d'ouvrir une église ou quoi, eh bien, on leur renvoie la figure, mais vous êtes excommunié, vous n'avez pas les pouvoirs de l'église. Or, donc, tout ceci fait l'objet d'une grande confusion, parce que d'abord il faut bien distinguer l'excommunication des évêques qui a été portée par une déclaration des quatre évêques de la fraternité en même temps que Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayeur à l'époque en 88. Et le cas des prêtres qui n'a rien à voir, puisqu'il n'y a jamais eu de déclaration d'excommunication à leur sujet ni concernant les fidèles. Voilà, ça c'est une première chose. Alors concernant ce décret d'excommunication du cardinal Gantin, du 1er juillet 88, et puis vous savez le motu proprio Ecclesia Dei de Jean-Paul II du 2 juillet, qui avait suivi ce geste de consécration épiscopale valide. Là, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, puisque le rite était traditionnel. Et ce geste donc avait été une secousse, et on reste encore aujourd'hui, presque 20 ans après, dans une situation toujours de blocage. Donc j'avais entrepris une défense, si vous voulez, de une espèce de livre blanc d'une part. Du traditionnalisme, c'est-à-dire des positions de Mgr Lefebvre, pour les expliquer d'un point de vue juridique et canonique, d'un côté, et d'autre part, eh bien, mettre tout cela sur le fond aussi de la crise générale de l'Église. Et il en est ressorti que ce livre, effectivement, s'est un petit peu diffusé, quoique sans beaucoup de publicité, c'est plutôt le bouche à oreille. On peut dire que là aussi, il y a eu un silence trappiste, assourdissant. Mais néanmoins, il a fait son petit bonhomme de chemin et il est allé jusqu'à Rome. À Rome, où il a été reçu et lu, notamment dans l'entourage du pape par et de la commission Ecclesia Dei et de la congrégation pour le clergé, donc l'entourage du cardinal Castrione. Et là-bas, eh bien, j'ai eu un retour, comme on dit, et effectivement, on nous a expliqué que ce livre avait été bien reçu et que désormais là-bas, on était convaincu que l'excommunication de Mgr Lefebvre n'avait pas été encourue.
Et est-ce que vous pensez que ça pourrait aller jusqu'à, je dirais pas une repentance, mais enfin une reconnaissance?
Voilà, une repentance, je crois pas, parce que bon, on peut pas. Mais je pense que c'est pas un secret, puisque le bruit a couru et continue de courir, que le pape lèverait cette excommunication. Il l'avait proposé à Mgr Fellé, comme on l'a su dans la presse. Et voilà, donc on sait que c'est dans l'air. Alors simplement, ce qui a été dit, c'est que cette excommunication était Mgr Lefebvre et les quatre évêques n'ont pas encouru une excommunication. Voilà ce qu'on
peut traduire pour les rares auditeurs aussi ignorants que moi.
Oui,
pour
bien
encourir,
sûr.
Ça veut dire être sous la menace de. Donc dans
non, encourir, ça veut dire ça veut dire. Si vous voulez, vous avez des sanctions dans l'Église qui sont encourues ipso facto. Pardonnez-moi, c'est encore du latin, mais ça veut dire du fait même du délit.
Laté sentence.
Alors c'est le contraire de laté. Oui, c'est ça. Non, c'est laté sententiae. Vous avez raison, Serge. Excusez-moi.
Autrement, c'est
ferende sententiae. Ça veut dire que vous avez des sanctions qui ne sont encourues que si l'autorité porte cette sanction, la déclare. Tandis que vous avez des sanctions qui sont encourues alors même qu'elles ne sont pas déclarées. Bah oui, par exemple, c'est vrai que certains crimes particulièrement odieux, l'avortement aussi.
J'ai l'impression que la fraternité Saint-Pilice, l'initiation maçonnique, c'est pas très
c'est pas vraiment le sujet.
Mais
on sait jamais.
On est excommunié ipso facto.
Oui.
Le fait de penser être maçon est excommunié.
Mais le fait de poser un acte, en cours, l'excommunication, c'est le cas d'un sacre. Pontifical depuis Pie XII qui avait instauré cette sanction à cause des Chinois. Et ça a continué puisque cette année les Chinois ont récemment, parce qu'il y avait là vraiment un schisme, c'est-à-dire une église parallèle qui se constituait une église d'État inféodée au régime maoïste. Alors Mgr Lefebvre, lui, n'a pas entendu créer une église parallèle, ni s'inféoder à un quelconque pouvoir. Et en fait, donc, on pourrait penser qu'il a encouru cette excommunication, mais il faut, pour qu'elle s'en suive de tous ses effets, qu'elle soit déclarée par Rome, ce qui a eu lieu. Alors ce que la position actuelle de Rome, c'est de dire, bon, l'excommunication n'a peut-être pas été encourue, en tout cas ça on peut pas le dire, mais il y a eu un décret, donc ça il faut l'enlever. Puisqu'il y a une déclaration qui a, une fois si vous voulez, la déclaration portée, on retomberait sous le coup d'une excommunication qui est comme la première, comme ferende sententiae, c'est-à-dire portée. Donc, Alors moi, je pense que c'est pas juste. Je pense que la déclaration d'excommunication est invalide. Il y a beaucoup d'arguments juridiques qui sont en faveur de cette démonstration. Je pense à la thèse de l'abbé Murray, un Américain qui avait présenté une thèse de droit canonique, qui avait d'abord eu, vous savez, toutes les faveurs du jury, et la note maximale. Et puis, bon, comme c'était politiquement incorrect à l'époque, il y a une dizaine d'années, on a revu le jugement de sa thèse à la baisse et on lui a demandé de ne plus communiquer dessus. Mais sa thèse, il n'a pas eu le droit de la publier. Alors donc voilà le
camarade Staline a pris le pouvoir.
Bon, mais cette thèse, bah, il y a eu quand même 2-3 articles qui ont filtré, un dans 30 jours, un à l'époque, un dans une revue américaine. Et on en connaît l'existence et la teneur. Et je pense que c'est la même démarche à peu près, puisque j'ai fait dans la démonstration que je propose, qui reste accessible à tous, parce que c'est une espèce de dictionnaire des questions qui se posent, un catéchisme avec 20 questions, et chaque chapitre est une réponse à une question précise. Est-ce que Monseigneur Lefebvre s'est pris pour le pape? Est-ce qu'il a créé une église parallèle? Est-ce qu'il a encouru une excommunication? Est-ce qu'elle est valide? Il a usé du droit de nécessité. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Parce que le droit de nécessité, c'est quoi? C'est que quand il y a urgence, ben, là, on est dispensé de la loi. C'est un grand principe de saint Thomas d'Aquin qui remonte aux Romains, au droit romain. Et le droit canonique intègre cette donnée. C'est-à-dire que quand il y a urgence, le rite traditionnel disparaissait. Il n'y avait plus de prêtres formés pour le célébrer. Il était interdit rigoureusement, ça on oublie de le dire, hein. Il continue d'être hors du droit aujourd'hui, le rite traditionnel. C'est là le scandale qui a créé cette situation. Et donc, désobéir à quelque chose d'injuste, ça n'est pas encourir un délit. Et aujourd'hui, donc, Rome reconnaît cela. C'est quand même très... Il y a eu une avancée. Et moi, donc, je suis heureux si ça va dans ce sens-là. Alors après, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent et que j'aborde dans ce livre, qui sont, au fond, les motifs pour lesquels on en est arrivé à un décret et un motu proprio du pape pour excommunier Monseigneur Lefebvre. Or, Jean-Paul II, à l'époque, l'écrit lui-même, dans ce fameux motu proprio, il dit « Mais la vraie raison... » Et c'est pourquoi on a brandi la question du schisme. Le titre de mon ouvrage s'appelle « Non-lieu sur un schisme ». On a brandi l'épouvantail du schisme parce que le schisme, c'est quelque chose de contagieux. L'excommunication, c'est sur une personne. Ouais. Mais le schisme, ça permettait d'englober tout le monde. Alors, un schisme, c'est rompre l'unité de l'Église, mais faut pas oublier que les liens de l'unité dans l'Église, ils sont traditionnellement répertoriés au nombre de 3. Vous avez le lien de la tradition doctrinale, le lien de la tradition liturgique, hein, et le lien de la soumission, de la reconnaissance de l'autorité du pape. Voilà. Or, ces 3 liens, non seulement n'ont pas été coupés par Mgr Lefebvre, mais ils ont même été maintenus. Alors on peut dire, mais oui, c'est vrai qu'il a maintenu le lien de la communion,
à l'exception
de la tradition, on pourrait dire, mais le dernier, il l'a rompu. Mais non, il a jamais dit que le pape n'était pas le pape, qu'il ne reconnaissait pas son autorité. Il a dit, malgré moi, en conscience, devant la nécessité de sauvegarder ce rite, qui est le lien de la communion, je ne peux pas obéir à cet ordre de célébrer le nouveau rite et d'interdire l'ancien. L'interdiction de l'ancien rite, ça, c'était peut-être un acte schismatique en revanche. Moi, ça c'est un avis personnel, parce que ça rompt le lien de la communion.
Alors dans toutes ces considérations qui sont pas banales, qui sont pas négligeables, il y en a une qui vient en plus, c'est que vous, en quelque sorte, vous avez été excommunié par les excommuniés. Et vous avez fait appel aux lois de la République, République pour être levé de cette excommunication.
Oui, c'est si assez vous voulez, moi, je suis en guerre contre les excommuniants. Mm-hmm. Voilà. S'il y a des excommuniés, c'est qu'il y a des grands excommuniants. Et donc, c'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre, 20 réponses aux excommuniants. Alors, dans ce livre, je n'aborde pas du tout la question, je dirais, la querelle interne qui me paraît misérable. Mais Mais puisque vous évoquez le sujet, en effet, donc l'abbé Laguéry et moi-même, en 2004, nous avons été chassés, je dirais, comme jamais on a chassé un domestique malhonnête ou un esclave aux Antilles au XVIIIe siècle. Alors nous avions fait des recours très simples, des recours en grâce, des appels au droit, parce que le droit c'est tout de même ce qui est objectif et ce qui permet de régler des litiges. Ça n'a pas été entendu. Nous avions fait un recours à Rome, justement auprès du cardinal Castrione, en demandant qu'il intervienne pour trancher au niveau du droit. Et ce recours a été rejeté à l'époque, le cardinal Castrione nous faisant dire que nous n'appartenions pas à l'Église, donc nous n'étions pas sujets du droit. Ce qui était étonnant, puisque tout chrétien baptisé est sujet du droit de l'Église. Et même un non-baptisé, s'il a affaire avec un ecclésiastique, il peut recourir à Rome. Mais nous n'avions pas ce droit. Alors il nous restait de pouvoir demander à la République, au moins de préserver notre droit, je dirais, dans le cadre de l'association cultuelle, puisque dans les lois républicaines, c'est la structure qui permet d'exercer le culte. Donc la fraternité a une association cultuelle, de laquelle nous avons aussi été chassés, et ce qui permettait aux dirigeants du district de nous supprimer immédiatement notre affiliation à la caisse d'assurance maladie. Vous voyez, c'est des choses très concrètes. On s'est retrouvé défroqué, c'était la case qui était cochée sur le formulaire par eux, et nous étions donc à la rue. Alors nous avions donc fait un recours au tribunal civil de Nanterre, qui vient de rendre sa décision cette semaine.
Il vous a rendu votre recours
entièrement. Oui.
Et vous étiez vaguiste alors aussi en même temps.
Alors vaguiste non, parce que si vous voulez, si. Alors c'est un autre sujet. Mais je l'aborde. Je vous réponds tout de suite, Monsieur le Marquis. Mais juste pour finir cette question de droit, elle est intéressante parce que ce jugement providentiellement arrive au moment où va se jouer le chapitre général de la fraternité, où donc, comme vous le mentionniez à l'instant, va être élu le successeur de Mgr Lefebvre à la tête. Moi, j'espère que l'on va aller vers une voie d'apaisement et que il va être enfin reconnu que les voies de fait qui ont été pratiquées contre nous sont illégales. C'est ce qu'a rendu la fraternité peut pas se permettre au niveau du district de France et de son supérieur d'agir contre le droit civil.
En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça ne paraît pas frapper au coin de la charité la plus.
Alors, d'autant que ce droit est très simple, il s'agit simplement du respect du droit de la défense, qui n'a pas été respecté, et du respect du principe d'impartialité. Et c'est-à-dire du droit d'être jugé par au sein de la cultuelle, au sein de la fraternité, par quelqu'un d'impartial. Or ceci, ce sont les normes mêmes du vieux droit romain et du droit canonique. Donc c'est la justice et la charité, bien évidemment. Et alors, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que le tribunal, enfin me concernant, pour le cas de l'abbé Laguéry, c'était simple, il était membre de cette cultuelle, mais vous savez, la cultuelle, c'est une association qui permet de recueillir des dons et legs, et puis de redistribuer, enfin de s'occuper de la gestion matérielle des prêtres. C'est de bon sens. Mais n'en font partie qu'un petit nombre, une trentaine. Or moi, je suis comme une centaine de prêtres du district de France, j'avais jamais été inscrit sur la liste des membres. Ce qui fait que l'abbé de Cacré, pour se défendre, a dit « Mais l'abbé n'a jamais été renvoyé, il n'a jamais fait partie de l'association cultuelle de la fraternité Saint-Pilice. »
Je comprends bien. On peut dire d'une certaine manière qu'il y a de tout dans la fraternité. Il y a des trappistes, on l'a vu tout à l'heure, il y a des jésuites.
Il y a de tout.
Hein, des trapézistes.
Il y a des trapézistes. Mais bon, moi, je suis... Tout ceci est très dommageable. Mais donc aujourd'hui, ce que le tribunal a reconnu, et ça, on doit vraiment remercier nos avocats, maître Jérôme Triomphe et maître Jérôme Thureau, qui ont monté ce dossier et nous ont défendu avec une habileté, une générosité, un talent qui fait qu'aujourd'hui, le tribunal a dit que tous les prêtres du district de France faisaient partie de la cultuelle au moins de fait, alors soit qu'ils aient une voix délibérative, soit qu'ils n'en aient pas. Et ça, c'est une grande chose qui est obtenue par nos deux avocats, Maître Thureau et Maître Triomphe, et qui, au fond, sert aussi, vous voyez, tout l'ensemble du district. Et j'espère surtout que ça servira à normaliser, à apaiser un petit peu le gouvernement.
Il y a beaucoup de fidèles, d'anciens fidèles de fraternité de Saint-Nicolas espèrent effectivement que cette histoire...
Ben oui, ça pèse, quoi. Mais je pense que ça va... tout le monde le souhaite. Je crois que c'est une page qu'il va falloir tourner gentiment. Vous me demandiez tout à l'heure si, à propos du terme vagus. Alors ça aussi, ça a été un terme...
Contraduit pour les ignorants comme moi.
Alors vagus...
Qui se promène, vagabond, oui.
C'est un terme qui est employé pour disqualifier un prêtre qui a quitté son institut, qui a quitté sa paroisse. On dit aussi girovague. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a plus de... Il n'est pas rattaché à quelque chose dans l'Église. Or, on n'est pas à son compte dans l'Église. On crée pas chacun sa boutique, évidemment. Donc, en soi, un prêtre vagus, il n'a pas le droit d'exercer les ordres, sauf nécessité. Mais l'ensemble des prêtres de la fraternité Saint-Pilice, bon, c'est vrai qu'ils sont rattachés à un institut, mais qui lui-même est vagus jusqu'à présent, puisque globalement, tout l'institut continue de n'être pas reconnu par Rome à l'heure actuelle. Donc si vous voulez, quand on a entendu, nous, d'ailleurs ça a été retenu par le tribunal de Nanterre, par rapport à des dires du supérieur de district qui nous jetait ces qualificatifs infamants de vagus, c'est toutes les diatribes qu'il a pu sortir contre nous ont été retenues par le juge comme une preuve de partialité dans sa décision. Mais vagus, ça ne veut rien dire, puisque nous sommes tous dans le droit de suppléance de l'Église, c'est-à-dire que dans le droit canonique, un prêtre normalement reçoit une mission d'un évêque ou d'un institut, mais depuis 1976, c'est-à-dire la dissolution de la fraternité Saint-Pilice à l'époque par l'évêque suisse, eh bien, on est tous en état d'apesanteur de ce point de vue de mission canonique. Mais l'Église le prévoit, et ça, je le développe dans mon livre, un droit de suppléance. C'est-à-dire que un prêtre qui n'a pas de mission, il la reçoit quand même de l'Église chaque fois que on fait appel à lui. Surtout pour une juste cause. Alors je crois que la cause de défendre la tradition est juste.
Donc vous n'allez plus rester longtemps vagus au sein des girovagues et excommunié par les excommuniés. Je le souhaite en tout cas.
Merci beaucoup, Serge.
Je voulais rappeler les références de...
Alors oui, merci d'y penser aux choses pratiques, parce que je serais content, il me reste encore quelques exemplaires du livre. Mais dépêchez-vous, parce que il est parti pratiquement à 80% de son stock qui était petit. Donc, c'est non-lieu sur un schisme, le titre. Non-lieu sur un schisme, donc par l'abbé Herry. Et c'est aux éditions Mascaret. Vous le trouvez pas en librairie, sauf les bonnes librairies. Donc à Paris, vous avez le Petit Pont. Vous avez aussi la librairie de Jean Augy.
Duquesne
Diffusion. Vous pouvez aussi le commander à Mascaret directement.
Mascaret, c'est le journal
de la paroisse Saint-Éloi.
Et à Bordeaux.
Alors, vous pouvez le mieux, c'est de le commander à mon nom. 11 rue Edmond Costedoite.
Comment vous l'écrivez ?
Ah, comme les Bretons. C-O-S-T-E-D-O-A-T.
Doat, hein, oui.
Voilà.
Il coûte
33 000. Il ne coûte pas 33 000 euros, c'est 33 000 Bordeaux.
Il coûte
24 euros, et vous pouvez ajouter pour les frais de port, mais 24 euros, vous l'avez donc en librairie chez Duquesne. Il y aura une dédicace également à la journée de Renaissance catholique à Villepreux le 16 juillet.
On va rappeler votre nom quand même, vous l'avez pas épelé.
C'est
H-E-R-Y, Christophe, puisque nous sommes deux frères prêtres. Donc voilà.
Merci, monsieur Abbé. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir.
C'est moi qui vous remercie vraiment de.
Très instructif.
Oui, de votre bon accueil.
Je vous bénis. Merci, merci. Merci. Nous avons une téléphonade. Après, je vous donne la parole, ma petite Victoria, mais il faut aller au bout. Allô?
Allô?
Comment allez-vous, mon cher Michel? Alors, c'est Michel Delière qui prend la parole pour une petite annonce. Vous recherchez quelqu'un. Alors, dites-nous exactement ce qu'il vous faut et pourquoi.
Bon, d'abord, cette annonce émane du mouvement néo-paysan de tradition. Mouvement néo-paysan de tradition. Adresse, le refuge, 77 540 Bernay, B-E-R-N-A-Y, en Brie, comme le fromage. Alors voici, il s'agit donc d'une annonce qui est en fait une offre d'emploi. Vous savez que ce mouvement invite les amoureux de la liberté et de la tranquillité à quitter la ville pour la campagne et y retrouver Dieu. L'œuvre Notre-Dame de Salérance, qui se trouve dans les Hautes-Alpes, fondée par le père Avril, pour secourir et les enfants de Harkis et ensuite le Libanais, est un domaine de 150 hectares que le père met à notre disposition afin de faire revivre une ferme, à notre disposition donc, pour faire revivre une ferme dont les bâtiments sont toujours là, intacts. Nous recherchons donc une famille nombreuse, si possible, catholique, bien entendu, traditionnaliste, et qui serait logée dans un grand chalet tout confort dominant le village de Salérance. Une formation agricole est offerte chez Madame Florian à Carpentras, parce que quand on vient de la ville ou qu'on n'est pas, on n'appartient pas au métier de paysan et de cultivateur et de fermier, il est bon naturellement d'apprendre à savoir ce que c'est que la terre et comment on s'en sert. Le but est donc la création d'une ferme autonome où on pratiquerait le maraîchage, l'arboriculture. Les arbres sont déjà plantés, il faut simplement les entretenir, les tailler, les sarcler, les fumer, plus un élevage d'ovins et de caprins. Alors,
Attendez, il faut que je... Michel, je peux vous interrompre une seconde?
Oui.
Parce que nos deux imbéciles qui sont à côté de moi, ils sont en train de caresser le projet de se paxer pour venir exploiter la ferme. Alors, dites-leur que c'est pas possible.
Ah, les fax, non.
Ça marchera pas.
Non, mais ça me semble une plaisanterie un peu déplacée en présence du père Éric.
Non, il est parti. Là, vous avez perdu.
Et moi, je suis là.
Vous n'êtes pas prêtre. Bien, voilà. Alors, non, blague à part, continuons.
Bon, alors arrêtons la blague et passons maintenant aux choses pratiques. Donc, pour un an, un SMIC est offert, c'est-à-dire le montant du SMIC, plus un logement gratuit, plus une formation gratuite, et ensuite, et plus en plus, une aide bénévole en main-d'œuvre est prévue, parce que des amis sont disponibles, souvent des retraités sont disponibles pour aider au démarrage de cette ferme. Alors, s'adresser donc au mouvement néo-paysan de tradition, le refuge, 77 540 Bernay-en-Brie, et nous savons qu'au bout d'un an, de ce stage, il y aura une décision à prendre si on continue ou si on ne continue pas. En attendant, dans le livre journal de la France courtoise, dont l'abonnement sera donné par monsieur Patrick Goffman, je donne tous les 10 jours un article qui correspond justement à ce retour à la terre en Dieu.
Mais alors, Michel Delière, 30 secondes, vous n'y allez pas, vous continuez à diriger le mouvement depuis la Seine-et-Marne.
Il n'a pas une famille nombreuse.
Ah bon.
C'est le problème, c'est qu'il faut des bras.
Puisque vous me demandez, vous me posez une question un petit peu spéciale, j'ai 82 ans, je commence à ne plus avoir une très bonne santé, puis ma femme a un cancer, alors c'est pas le moment tellement de partir dans un endroit écarté. Je pense que vous le comprenez.
Ou d'être homme d'honneur, on est la liberté. Merci Michel.
Je vous en prie.
À bientôt.
Au revoir.
Non mais on rit parce que ça nous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui fait de proposer une formation complète à un... Ça vous intéresse pas Adeline? Vous êtes parfait, vous. Vous êtes fort comme un Turc, vous avez une grande famille.
Oui, mais...
oui, c'est idéal.
Non, il y a une condition que je remplis pas.
Vous n'êtes pas catholique?
Je suis catholique romain.
Bon, on va faire la suite.
Ah bah oui.
Non, je ne suis pas absolument indispensable de chanter, mon cher Patrick. Vous avez d'autres qualités, mais celle-ci ne fait pas partie.
Je me demande lesquelles, parce que je constate quand même que mon compagnon Jean-Paul de Lemeta et moi-même, nous sommes exclus de la néo-tradition paysanne.
Ouais, je ne réutais pas trop avec ça. Vous savez que Michel n'aime pas ça du tout.
Ah bon, alors dans ce cas-là, moi
alors,
ça m'arrange.
Un auditeur me dit, si vous voulez vous instruire sérieusement, lisez « Sont-ils évêques ?» Le nouveau rituel de consécration épiscopale est-il valide ? Par le frère Pierre-Marie, édition du Sel, couvent de la Haye aux bons hommes, 49-240 Avrier, 59 francs, soit 9 euros en monnaie de singe, dit-il. Oui, c'est d'ailleurs un des éléments du débat, puisque au fond, le travail de l'abbé Secada est une forme de réponse, enfin fait partie de la disputation dans laquelle s'exprime le frère Pierre-Marie, qui lui prend la défense de la validité des sacres. Bien. Maintenant, on va parler de tout à fait autre chose.
Vous avez reçu une
question très intéressante du camarade Molitor, directeur de Minute.
Qui vous écrit « L'intervention d'Alain m'étonne au sujet de Ségolène Royal quant à son mariage récent, si j'ai bien entendu. Qu'en est-il de son mandat de député, du mandat de député dont elle est toujours détentrice ? En effet, au regard du code électoral, il est impossible à un couple d'être chacun député. Alain est-il certain de cette information ?
Alors, c'est un mariage pour l'instant dont j'ai eu écho et qui est secret. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est ce col électoral qui serait un peu faux cul dans la mesure où le concubinage déclaré est l'équivalent dans notre République d'un mariage. Un pax est l'équivalent d'un mariage avec tous les droits afférents à un mariage. Ce serait un peu faux cul de priver ce bon fromage de Hollande et cette belle Ségolène de la qualité.
Je ne sais pas où il est allé chercher.
Je suppose que s'il le dit, il a dû vérifier quand même.
Il a dû vérifier dans le code électoral, mais
c'est très intéressant.
Grand scoop pour une fois, je vais dire, je ne sais pas. Voilà.
Je ne sais pas.
Ni toi, ni aucun de tes frères.
Aucun de mes frères.
Aucun des quintuplés.
Non.
Parce que vous connaissez ma théorie sur Sanders. En fait, c'est pas Alain Sanders, il s'en est quintuplé. Et c'est pour ça qu'il écrit autant, qu'il fait autant de choses. Il y en a un qui danse, il y en a un qui fait de la musique, il y en a un qui écrit à présent, il y en a un qui fait des livres, il y en a un qui est même, j'ai travaillé avec pour la nuit de Jéricho et tout.
Mais peut-être qu'à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas au courant.
Il doit y avoir une explication, mais c'est intéressant. On va creuser le truc.
Peut-être qu'on a froissé nos bons confrères de Minute prétendant avoir un scoop.
Ah non.
Ils ont un peu l'exclusivité quand même.
Non. Non, mais ils vont eux-mêmes le vérifieront, parce qu'il est possible aussi que j'ai été abusé.
Ou alors ils ne sont pas mariés, et puis voilà, c'est une rumeur.
Exactement.
Il peut y avoir un scoop hors de Minute. Par exemple, Serge de Beketch,
oui.
Dans le Libre Journal.
C'est bon, le Libre Journal aussi.
Numéro 381 qui vient de paraître. Alors, je commençais, et ça m'est égal s'il est à côté de moi et qu'il l'interprète comme il veut, pour rendre hommage à un de nos collaborateurs, à savoir le marquis de Olmeta. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Serge,
c'est
que...
Allez-y, mon petit Patrick, continuez.
Et parce que, vous savez, Serge, que je circule pas mal dans la région parisienne pour empêcher les gens de s'abonner et toutes ces sortes de choses. Et donc, j'ai des retours. C'est-à-dire, je dois dire que je reçois pas mal de compliments. Je les prends pas tous pour argent comptant. Et puis, je me rends compte que ceux qui veulent être désagréables, souvent, ils se retiennent et que... Mais... J'ai enfin entendu des choses désagréables récemment, et ça vous concernait, mon cher Marquis.
Tant mieux.
Donc vous allez voir que s'il s'agit pas simplement de vous serrer les pompes. J'ai entendu à plusieurs reprises la semaine dernière, le Marquis n'est naturellement pas plus Marquis que ma concierge. De plus, c'est un mythomane. La preuve, nous ne l'avons jamais vu au Rotary de Montargis.
C'est mon frère, ça.
Mon frère
est directeur de la Société Générale de Montargis.
Ah bah,
et il est membre du Rotary de Montargis.
Il n'est pas abonné au Libre Journal.
Ça, c'est fantastique parce que j'ai dit Montargis au hasard.
Ah bon?
Naturellement, on m'a cité le Lions Club de Chili Mazarin. Et j'ai voulu être charitable et pas les frapper.
Ouais, c'est drôle.
Ça n'est qu'une coïncidence. Alors, ça me donne l'occasion de répondre simplement ceci. Je ne vais pas répondre à la place du marquis, ni sur son marquisat, ni sur sa mythomanie. Mais je vais répondre simplement ceci. La qualité de notre chronique mondaine dans le Libre Journal est telle qu'on ne peut pas y croire.
oui.
Et qu'on s'imagine qu'il s'agit d'un
faiseur.
Ben ouais. Voilà, quand décade après décade, le marquis, par exemple, dans le numéro 380, est un des 900 invités de Monsieur Pinault quand il installe son musée à Venise, et qu'il tape sur le ventre du PDG de Ferrari ou de celui de L'Oréal, on ne peut pas y croire. Alors moi, je dis aux gens qui sont tentés...
Permettez-moi de vous dire, simplement, c'est pas un million, on se tape sur le ventre, mais enfin bon, quand on fréquente 1000 à la sortie des usines Renault, c'est des choses qu'on ne sait pas.
Naturellement, c'est une façon de parler, et c'est une façon de dire que, effectivement, on a du mal à en croire ses yeux quand on lit la chronique mondaine du Libre Journal, et qu'on doit... pour tout peut-être se contenter d'habitude de Gala et compagnie, parce que Gala et compagnie, ils se tapent sur le ventre entre photographes, entre journalistes, à 200 mètres des lieux, derrière des téléobjectifs de 2 mètres de long, tandis que nous avons quelqu'un dans la place et quelqu'un de méchant et quelqu'un qui a une plume affûtée, ce qui fait qu'on a la meilleure chronique mondaine de toute la presse française de très loin et qu'il faut vraiment être cinglé pour ne pas s'abonner à ce journal. Où on trouvera par ailleurs.
C'est beaucoup de monde quand même.
Puisqu'il ne peut pas se défendre tout seul.
Si, certainement.
On va dire, non mais sur son titre, on va dire que c'est un authentique marquis, fait marquis par Juan Carlos. Juan Carlos qui est un modèle, comme on le sait, de la réinstauration des institutions monarchiques.
Les gens qui veulent s'en assurer, qui veulent les détails, comme lui, comme il a sa principale, comme il le dit toujours en privé, sa principale qualité, c'est sa modestie. Il n'est pas capable, pas plus que Serge d'ailleurs, de vendre sa propre soupe. Donc une fois, je crois que c'est la première fois qu'on le fait. Je signale que le marquis a publié des mémoires il y a quelques mois qui s'appellent Mais ceci est une autre histoire et que donc on trouvera les détails sur son marquisat et le reste, la question de savoir s'il est un descendant ou un ancêtre. En envoyant 28,60 € frais de port compris à la Société des Écrivains, 147 rue Saint-Honoré, 75-001.
Mais Paris. Finalement, c'était vrai cette histoire de Pax. Là,
oui. Alors, on est viré du Libre Journal aussi. Là, vous êtes aussi sectaire que la néo-tradition. Bon, j'en prends bonne note. C'est agréable. Alors, on trouve donc cette fantastique chronique mondaine. Et on va la garder. D'ailleurs, j'ai pas peur que Gala ou point de vue téléphone, parce que je suis complètement persuadé, ça fait quelques années que je l'étudie, que le marquis ne créera jamais une ligne pour un sou, et que c'est justement parce qu'on le paye à coups de pied qu'il fait cette chronique pour le Libre Journal, mais qu'il enverrait promener tout autre...
Il fait bastonner par ses gens.
Tout autre offre.
Toute personne qui lui proposait de l'argent, c'est pour ça d'ailleurs que je m'en garde bien.
Oui, restons amis.
On trouve en dehors de cette chronique, on trouve donc dans le numéro 381 qui sort des presses aujourd'hui même, un article qui fait la liste des crimes racistes, des propos et des écrits racistes de messieurs Voltaire et de Gaulle, qu'il faut donc chasser de nos villes d'urgence. Il y a deux pages sur Alger qui menace de rappeler sa main-d'œuvre émigrée, ce qui est quand même une perspective
sacrée menace.
Très cruelle.
Je trouve que c'est pas correct de la part de Bouteflika.
Et qui, de l'autre main, nous demande 1300 milliards d'euros, mais ça, on l'a déjà traité il y a une semaine, je crois. Alors, on poursuit sur le football, puisque maintenant qu'on a fait les frais d'un jeune chroniqueur sportif, on l'exploite jusqu'au bout, et on montre que, bon, bah, contrairement à 98, où le football, en une soirée, en 90 minutes, avait réalisé l'intégration raciale totale et définitive en France, c'est le même football est en train d'accomplir, de détricoter, de défaire ce qu'il avait fait. On n'a pas de revue de presse, ça c'est une catastrophe. On a un très bon papier sur les côtés un peu vicelards des dessins animés, qui sont souvent subliminaux et d'autant plus vicelards. On a une chronique charmante de Marie-Claude Monchot, qui est une grande professionnelle, qui a fait, je le rappelle, une grande carrière dans l'édition internationale. On a une magnifique photo stalinienne, bien agrandie, où on montre que les antiracistes, comme leur prédécesseur Staline, truquent les photos d'une façon éhontée.
Tu as vu ça, c'est extraordinaire. Ils ont fait une photo de manif où il n'y avait personne. Ils ont reproduit
une journée. Une
manif antiraciste, bien sûr. Et pour finir, je vais faire un petit mea culpa au passage. J'ai découvert dans le métro, parce que j'emporte les épreuves pour bien flipper dans le métro en découvrant les fautes que j'ai oubliées en ma qualité de correcteur, j'ai découvert l'article de François Brignot dans le métro. Et vraiment, j'étais malheureux parce que comme on était débordé, enfin on a eu vraiment un bouclage très désordonné. J'ai pas relu ces pages-là en me disant il y a presque pas de fautes dans ces pages-là, donc c'est celle-là qu'il faut que j'abandonne. Il reste donc 4 ou 5 fautes, et c'est dommage parce que ce sont 3 pages qui sont
magnifiques.
Mais magnifique. Vraiment, mais à pisser de rire, je riais tout seul dans le métro, en pleurant comme Gargantua de l'autre œil à cause des 3-4 fautes que j'ai laissées, et d'une pénétration, d'une intelligence extraordinaire. C'est à la fois la nécrologie de Georges-Paul Wagner, qui est très sentie, et c'est presque mêlé à une chronique de la crise gouvernementale et parlementaire à la télévision, mais qui est presque géniale. Ça vaut à soi tout seul les 5 euros, ou plutôt le carnet de timbre qu'on envoie pour se procurer ce numéro 381. Et je crois qu'il faut se décider maintenant à s'abonner pour le prix raisonnable de 110 euros par an.
De toute façon, on prendra les noms. C'est pas compliqué. On ira voir les listes électorales. On fera une comparaison entre la liste des abonnés du journal et la liste électorale. Et les non-abonnés...
Delanoë m'envoie bien un journal sur une adresse qu'il a piquée sur les listes électorales. Donc, on envoie ça. Non, je dois encore donner l'adresse et je dois encore annoncer 2 signatures. 30 secondes de plus. Donc, l'adresse de votre journal, celle de Bekesh, que vous essayez de m'empêcher de donner, c'est 4 places France Liste, 75-010 Paris. On peut consulter nos archives gratuitement sur le site francecourtoise.info. Je signale pour finir 2 signatures. Notre ami et camarade Alain Soral signe le 24 juin, je crois que c'est samedi prochain, à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, métro Trinité, à Paris 9e. Et moi-même, je signe Batafam tous les jours à la librairie la Licorne Bleue, 3 bis rue Jules Vallès, métro Federne, Chaligny, donc le 1er juillet. Si on peut pas attendre, on m'envoie 10 euros à mon ordre, à l'ordre de Patrick Goffman, chez SDB, 4 place Francely, 75-010, Paris.
Merci, bravo, félicitations. Pouvez-vous m'attraper le journal? Oui, je peux vous attraper le journal, notre éditoria. Voilà.
Elle devrait s'abonner, cette
fois. Oui, elle devrait s'abonner. Alors, voilà, nous venons maintenant à notre sujet qui est si j'ose dire, l'année Marie-Antoinette, puisqu'il y a un film de Coppola, la fille de Coppola qui est paru récemment, qui est sorti récemment. Il y a une tragédie qui a été écrite par Yves-Marie Adeline. Et je vais vous faire un aveu, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne l'ai pas lu, mais connaissant le talent d'Yves-Marie Adeline, je suis persuadé que je vais vous régaler dès que je vais l'avoir trouvé.
Et vous avez
parmi
vu le
les
film, Serge
bouquins. Comment ?
Vous avez vu le film, je suis sûr.
Non, j'ai pas vu le film, non, ça non plus. Et puis, le film a eu au moins, Félix Kulpa, un effet bénéfique, c'est qu'il a inspiré à Alain l'idée de faire un livre sur la désinformation autour de Marie-Antoinette. Donc, la première chose, je viens de faire l'aveu qui me peine beaucoup et qui me pèse énormément que je n'ai pas lu la tragédie d'Yves-Marie, mais je sais qu'Alain l'a lu avec beaucoup d'attention, et je voudrais que lui nous en parle.
Alors, je vais en parler, et ça tombe très bien parce que le livre sur la désinformation autour de Marie-Antoinette s'arrête comme le film, volontairement, aux journées d'octobre 89. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Adeline, c'est pas parce qu'il est là, c'est notre Peggy. Il faut lire ses poèmes. Il a écrit des choses admirables, la litanie des saints et des évêques, c'est superbe. Et là, dans ce Marie-Antoinette, qui sera, je pense, joué, ou qui y a des projets là-dessus, parce que ça serait plus qu'une faute, ça serait un péché que de le laisser seulement à la lecture, il a donné toute la dimension à ce terrible drame qui a été celui de cette femme martyrisée. Et tout est juste, tout est vrai, rien n'est inventé, rien n'est superfétatoire, mais pourtant c'est quand même réécrit, c'est recomposé, c'est retravaillé, et ça donne une dimension, je crois avoir vu la plupart des films qui traitent du sujet, ou d'avoir lu même d'autres pièces qui essaient de tourner autour de tout ça, c'est généralement un procès. Même quand c'est celui de Marie-Antoinette, même quand il y a des rebondissements et des choses ignobles, c'est un peu barbant. Un procès, c'est jamais très drôle, c'est pas très rock'n'roll. Là, il rend ce procès intéressant et on en sort complètement, on était amoureux de cette petite jeune fille qui est arrivée très tôt chez nous. On sort militant, croisé, mobilisé pour la mémoire de cette femme, après avoir lu cette pièce de théâtre qui n'est ni un drame, ni une comédie, ni une tragédie, qui est un hommage, le mausolée qu'elle n'avait peut-être pas encore.
Alors, la question qui se pose, à travers donc, ce que tu viens de dire de la tragédie écrite par Marie-Hélène et ton bouquin, c'est la question de la genèse d'une cabale en réalité, parce que on a effectivement quand tu rappelles dans ton livre que quand Marie-Antoinette arrive à Paris, elle écrit à sa mère qu'elle est reçue elle, par des Français qui l'adorent, et elle-même elle adore les Français,
oui, d'admiration et de,
et puis en quelques années cette image de la petite jeune fille que tout le monde aimait va être dégradé, va être sali, abîmé, souillé. Et quand même, ça se passe au moment où dans le royaume il y a les menées qui vont aboutir à la farce des cahiers de doléances, à la farce sanglante et grotesque des cahiers de doléances, et à la tragédie alors là sanguinolente qui s'en est suivie. Est-ce que ça veut dire, là je pose d'abord la question à Yves-Marie, est-ce que ça veut dire que il y avait un complot? Bon, on a parlé des Illuminati, on a parlé de tas de choses, mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y avait réellement une intention concertée d'abattre la monarchie à travers cette petite princesse autrichienne? Ou est-ce que ça s'est passé, ça s'est fabriqué tout seul en quelque sorte?
Moi je crois que ça s'est fabriqué tout seul. Je suis pas convaincu qu'il y avait un procès contre la monarchie. Il y a d'abord les penseurs des Lumières sont avant tout des gens qui sont contre l'Église. Personne n'imagine, à part Rousseau, et encore sur la fin de sa vie, Rousseau n'est plus vraiment républicain, on finit par l'oublier, et puis Helvétius. Mais Voltaire et enfin tous les autres sont des gens qui remettent pas du tout en cause la monarchie. Si et seulement si cette monarchie peut être un despotisme éclairé par le protestantisme ou l'orthodoxie. Du moment que c'est contre l'Église, c'est ça qui compte. Donc en 89, personne n'imagine un instant que la monarchie va tomber. Alors c'est vrai qu'après coup, on a fait un tas de théories sur des complots contre l'ordre royal. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. D'ailleurs, au début de la pièce, enfin, moi, je suis dramaturge Antoinette, je suis pas historien.
Quel est le ressort dramatique principal de Marie-Antoinette dans
la pièce?
Qu'est-ce qu'elle pense en fait? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ce qui lui arrive?
Au début, la pièce commence. Alors, je parle presque sous le contrôle d'Alain, puisque moi, je suis l'auteur, mais Alain est le commentateur. Au début, le premier acte, ça se passe au hameau de la reine, c'est quand tout va bien. Et puis ensuite, elle-même est entraînée dans un mouvement. Elle est la cible d'une haine absolument incroyable.
Et elle comprend d'où vient cette haine?
Non, elle ne le comprend pas. C'est une femme qui a été atrocement calomniée.
Ça atteint d'ailleurs des degrés...
Des degrés inimaginables.
Même aujourd'hui, on pourrait... à la limite, le procès d'Outreau, les accusations qui ont été portées au cours du procès d'Outreau, elles sont presque moins graves que...
Ça finit par l'enfer total. Enfin, après il y a des lectures différentes. Le Figaro a dit que cette pièce était une descente aux enfers. Et j'ai un ami qui lui est metteur en scène qui dit non, ils se sont trompés. C'est pas vraiment une descente aux enfers. C'est au contraire, Marie-Antoinette, à mesure que l'étau se resserre sur elle, monte en fait. Bon, mais c'est vrai que ça va finir vraiment dans l'abjection la plus totale. C'est quand même pendant son procès, on l'accuse même d'avoir procédé à des attouchements sur son fils, etc.
C'est ça, hein.
Et donc elle ne peut plus que répondre au public qui est devant elle et qui braille dans la pièce, en tout cas qui veut s'y faire.
Qu'elle manque de retourner le public.
Oui, qu'elle manque de retourner. Oui, c'est vrai. Mais bon, alors dans la pièce, non. J'ai voulu maintenir l'intensité dramatique, mais non, moi je suis pas certain qu'il y ait eu.
Dans le personnage que vous avez imaginé, oui, vous avez bâti autour de la connaissance historique que vous avez de la vraie Marie-Antoinette, Ce personnage-là, est-ce qu'il est conscient de vivre un martyr au sens religieux du terme?
Non, elle en devient, c'est un prêtre qui le lui dit, tout à fait à la fin de la pièce, donc au cinquième acte, c'est une pièce qui est assez longue, là, qui peut durer 2h15 à peu près. Et donc, ça doit être vers la quatrième ou troisième scène du cinquième acte, il y a un prêtre qui vient la voir. Ça, c'est une scène réelle, ouais, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre déguisé en militaire qui est venu la confesser. Ouais. Moi, pour les questions de cohérence de la pièce, il est pas en militaire, il est en civil. Mais alors après, j'imagine évidemment l'échange qui s'est fait que personne ne connaît, et c'est lui qui lui dit que l'Église a besoin d'elle, parce qu'en fait l'Église c'est une machine très lourde depuis 2000 ans qui ne vit que grâce à des gens comme elle, qui sont comme des huîtres collées au rocher du malheur, mais c'est à l'intérieur des huîtres que poussent les perles, quoi. Et donc alors en fait elle découvre cette espèce de destinée qui était la sienne, et elle comprend pas, elle comprend pas très bien ce qui se passe. C'est lui qui lui fait un peu comprendre. Donc elle, mais de toute manière, à la fin de la pièce, elle est dans, comment dirais-je, elle va donc être guillotinée. Elle a déjà perdu son mari. Elle a eu le malheur en tant que mère de perdre deux enfants, et donc elle pense les rejoindre. Il n'y a plus qu'à ça qu'elle pense à la fin.
Le journaliste Sanders qui a écrit la désinformation autour de Marie-Antoinette en appliquant les techniques d'investigation, de recherche des documents, ça, est-ce qu'il cautionne?
Non. Non, je suis persuadé qu'il y a eu une construction. Une véritable construction. Et bon, je renvoie à ce que j'ai appelé l'affaire. Ouais. En Italie, entre guillemets, du collier, qui est une véritable construction où il y a eu une dupe ou un dupe, des escrocs, mais il y a eu une véritable construction. C'est un instrument qui est Joseph Balsamo, Galiostro, qui ne rencontre pas Rohan par hasard et qui va s'emparer véritablement de Rohan. Ce n'est pas par hasard que la marquise de Bougainvilliers va faire rencontrer Madame de la Motte Valois, etc.
Brinvilliers,
oui. Va faire rencontrer la jeune de la Motte. Toutes ces choses-là sont construites et on le trouve dans l'itinéraire de l'instrument principal de ces choses-là, qui est Balsamo, qu'on va retrouver initié dès 1776. Il est initié à une loge d'un ordre hermétique, qui est la Haute Espérance, qui est proche des Illuminati dont tu as parlé, les Illuminés de Bavière, etc. Et dès lors, on le voit aller un petit peu partout. Il est à La Haye, il est à Leipzig, il est à Saint-Pétersbourg, il est à Francfort, il est à Strasbourg. Et là, il s'installe dans le palais du cardinal de Rohan. Et là commence véritablement une construction. Mmh. Et je pense qu'il y a un véritable plan de détruire la monarchie catholique. D'abord parce qu'elle est catholique et parce qu'elle est, un royaume chrétien. Et c'est tout ce formidable travail qui va se mettre en place, initié imbécilement par la cour au départ, parce que le comte d'Artois ou le comte de Provence, qui vont devenir Charles X, Louis XVIII et Charles X, sont à l'origine des premiers libelles infâmes conçus en Angleterre. Louis XV, le premier libelle, quand le premier libelle sort, c'est Louis XV qui envoie Beaumarchais pour essayer de le récupérer, etc. On connaît tout ça. Mm-hmm. Et on va s'apercevoir que ces gens-là, qui côtoient, qui sont dans ces francs-maçonneries qu'on sait plus décrire, qu'on sait plus trop définir même, c'est ces gens-là qui vont attaquer le maillon faible, comme on dirait aujourd'hui. Ouais. Et le maillon faible, c'est cette petite jeune fille qui, entre nous soit dit, est la reine la plus française qu'on ait jamais eue, par ses attaches bien paternelles. Sûr, c'est sûr. La reine la plus française, c'est celle qu'on va appeler la mégère, l'étrangère, l'autrichienne, l'allemande.
Et même par le cœur.
Et par le cœur, partout. Oui. Mais
oui,
voilà.
Ce qui est quand même très frappant, c'est que on est dans un processus qu'on connaît aujourd'hui parfaitement. On est dans un processus de la cabale fabriquée.
Et qui n'est pas terminé.
Et qui n'est pas terminé.
On continue de l'insulter. Ce qui est le plus grand honneur qu'on puisse faire à ce genre de personnage. On fait la même chose avec Jeanne d'Arc, par exemple.
Et alors, oui, c'est ça. Et y a toujours les mêmes crapules voltairiennes. Ouais, ouais. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que, enfin, l'image qu'on garde, c'est de cette tourbe immonde, qu'est toute cette racaille, toutes ces espèces de faux initiés, de
ouais,
petits tripatouilleurs, de faux mages, de,
ouais.
Et pas seulement de Hollande, mais aussi, ouais. Alors, français. Il sort comme dans la fameuse image de l'épée qui sort du marais. Il sort une image de plus en plus épurée,
ouais,
c'est ce que disait Yves-Marie tout à l'heure de la reine,
ouais.
Et ça finit par ce dessin, le portrait de la reine sur
David.
De David, le dessin de David sur la charrette, ouais. Condamnée, où elle est réduite à sa plus simple expression, on pourrait dire. D'ailleurs, le dessin lui-même est réduit à sa plus simple expression.
Oui, c'est un trait.
Et on voit une vierge de douleur.
Parce qu'il était sur le vif.
Cela dit, dit-on, il était dans l'angle de la rue.
Oui.
Quand il l'a fait, il l'a pris.
Et on oublie de dire que David est un régicide.
Oui, c'est sûr, mais il a dû être atteint quand même.
C'est possible,
cette vierge de douleur qu'il a vu apparaître sur cette charrette.
C'était quand même un artiste.
Ouais. Oui, c'était
un grand artiste. Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir comment cette désinformation, jusqu'en 89, et puis après, ça s'est précipité, s'est mise en place, et pas, contrairement à ce qu'on croit, simplement à l'extérieur de Versailles, mais à l'intérieur même de Versailles. Parce qu'il y a des clans, il y a des tribus, il y a ceux qui sont contre cette alliance franco-autrichienne, contre laquelle ils sont battus, les trois filles de Louis XV, sauf Louise, qui est bonne sœur à l'époque, mais elles font tout pour mettre cette petite jeune fille dans leur camp. Et on a ce Louis XV vieillissant entre les mains de la Dubarry, qui est représentée chez Sofia Coppola en superbe brune piquante, alors que Louis XV l'avait remarqué parce qu'elle était blonde, qu'on voit attablé et qui rote à table devant le roi.
Ah oui, ça,
le roi lui-même transporté, Dieu sait si j'aime les ranchmen texans, mais qui se tient presque avec les bottes sur la table. Bon, c'est complètement. Et moi, ce qui m'a fait bondir, parce que le film de Sofia Coppola, elle l'a pas fait pour être méchante. Elle l'a fait pour rendre la reine sympathique. Et elle le fait comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une petite ado qui fait la teuf avec ses copines. Elle fume pas du hache, mais s'il y en avait, elle le ferait. Elle porte des trucs fluo rose. Elle a jamais porté de rose, Marie-Antoinette. Elle aimait le fuchsia, ouais, le mauve, ouais, et tout ça. Ouais. On la voit pendant le film. Il y a même, pour que ce soit plus criant et parlant, on voit une collection de chaussures 18e et au milieu, il y a une paire de Converse. Tu sais, c'est le truc que portent les jeunes.
Les baskets.
Bon, il y a toutes ces choses-là. Il y a des erreurs. On reprend l'erreur du fait qu'elle se serait mise nue, complètement dénudée pour passer. Bon, tout ça, c'est anecdotique. Mais ce qui est intolérable, c'est la liaison qui lui est prêtée et montrée avec Fersen. Parce que je ne dis pas qu'elle n'ait pas eu de sentiments, je ne dis pas qu'il n'ait pas eu de sentiments, il a été d'une fidélité jusqu'au bout admirable, et peut-être, mais matériel d'abord. Elle ne pouvait pas aller faire pipi toute seule. Elle avait 2000 serviteurs. Elle avait des espions, entre guillemets, payé par sa mère, payé par Mercier Argenteau, qui était l'ambassadeur qui la surveillait, l'abbé de Vraiment qui était là, l'abbé de Véry qui passait. Elle était sans arrêt là. Même quand l'aurait-elle voulu, elle ne pouvait pas trouver 5 minutes pour entretenir un commerce de lit avec Fersen. Et dans le film, en plus, ils font ça dans les hauteurs du hameau de la Reine, au vu et au su. Bon, il y a 2000 serviteurs qui sont là, des paysans qui passent, du monde. Ouais. Quand? Voilà. C'est ce côté-là qui est insupportable. Et quand on lui disait, ça a commencé, ça s'est aggravé quand elle a eu son premier enfant. Parce que jusque-là, les autres avaient des espérances. Et à partir du moment où elle devient mère, c'est fini pour eux. Et ils l'écrivent d'ailleurs au roi de Suède. Vous savez que ma bonne fortune est terminée. Écrit, je crois que je ne sais plus si c'est Provence qui écrit ça au roi de Suède, parce que c'est terminé pour. Et il va falloir faire croire que ses enfants ne sont pas du roi.
Alain Sanders a devancé ma question, mais je vais la poser quand même, vous allez comprendre pourquoi. Bon, d'abord, je voudrais dire aux auditeurs qu'ils lâchent la télé, parce qu'ils ne vont ni voir ni entendre grand-chose de plus intéressant que sur Radio Courtoisie, qu'ils ont bien raison d'écouter. Et ensuite, je voulais poser la question du film, parce que moi, j'ai eu la surprise, tout le monde, beaucoup d'auditeurs ont eu la surprise d'entendre un esprit aussi fin et délicat que Michel de Gégère présenter sur cette antenne le supplément du Figaro sur Marie-Antoinette et défendre ce film. Je citerai également l'Action française, dont le numéro 2, son nom va me revenir, où vous allez
Fromentou,
Michel Fromentou, est allé voir le film et a conclu qu'il n'est pas si niais que ça. Alors, je voulais vous demander ce que vous en pensez.
C'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit que ce film, ce qu'il y a de très bête, c'est qu'elle a fait ça pour rendre Marie-Antoinette sympathique.
Mais c'est américaine, alors. Mais Alain Sanders, vous faites de l'anti-américanisme.
Mais non, je ne fais pas d'anti-américanisme. Je ne fais pas surtout en ce qui concerne Versailles, parce que c'est grâce à Versailles que le hameau de la Reine a été restauré. C'est grâce aux envois, déjà à l'époque, que le jardin anglais de Trianon était plein d'essence envoyée des Amériques, etc. Je ne fais pas d'anti-américanisme. Sofia Coppola ne connaît rien. Pour elle, notre politique étrangère de cette époque-là, et pour elle, et pour n'importe quel Français, le jeu politique entre l'Autriche, la Prusse, les États allemands, tous ces trucs-là à l'époque-là, et Marie-Antoinette est prise dans ce maelstrom. Elle est un peu otage politique de tous ces gens-là. Et les Français n'en savent rien. C'est bon, il y a les historiens, mais que Sofia Coppola ne le sache pas, ça n'a rien d'étonnant. Alors, ce qu'il y a très embêtant, c'est qu'on la voit arriver à, elle n'a pas 15 ans, et on la voit en octobre 89, elle n'a pas grandi. Elle n'a pas bougé. On voit un Louis XVI absent. Louis XVI est un grand gaillard qui la dépassait.
Largement.
Bon, là, dans le film, c'est un Hollande. Il a l'intelligence et la stature d'un Hollande dans ce film, ce qui est dommage. Rien n'apparaît. Alors on voit un petit peu Lafayette, parce que ça, bon, pour vendre en Amérique, c'est bon, mais sur la politique, il n'y a rien, à aucun moment, à aucun moment. Et c'est ça qui est embêtant. Alors que de beaux esprits qui ont des journaux glacés avec des belles photos du film ne peuvent pas non plus utiliser les photos du film et dire ce film est une abomination, parce que ça n'est pas une abomination, ça ne serait pas vrai. Et je comprends, je n'ai pas lu l'article de Michel, mais Michel Fromentou est un ami, un bel esprit. Je pense qu'il s'est dit, ce film-là va créer un déclic chez des esprits qui, et ils vont peut-être aller plus loin. Voilà, je crois que c'est ça.
Oui, Yves-Marie, je vous prie.
En fait, ce film de Coppola, je voudrais trouver... Enfin, je suis assez d'accord avec ce que dit Alain, parce que il faut savoir ce que les gens pensent. Le dernier film qui parlait de Louis XVI, ou un des derniers films, c'était Beaumarchais l'Insolent. Dans Beaumarchais l'Insolent, Louis XVI est petit, gros et zozote. Bon. Donc, Louis XVI n'a jamais zozoté. Il n'était pas petit, il faisait plus d'1m90. Et il était corpulent. Il était fort, il était surtout d'une force herculéenne.
C'est un type qui faisait 5 heures, 6 heures de chasse à cheval.
Absolument, c'est le plus grand cavalier d'Europe à son époque. Et d'ailleurs, bon, dans la pièce, mais c'est un peu facile de faire ce que j'ai fait, mais enfin, Marie-Antoinette lui reproche de ne pas avoir fait preuve d'un peu plus de sens de communication, de s'être montré, et notamment à cheval, parce que c'est vrai que ça nous manque un peu le... on n'a pas beaucoup de portraits de Louis XVI à cheval, on ne le montre jamais à cheval. Mais vous savez, cette idée de taille de Louis XVI, alors donc La Bonne Marche d'Insolent, Louis XVI est petit, gros et zozote, mais quand j'ai vu le téléfilm sur Zola, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, Zola ne zozote pas là pour le coup, alors qu'on sait parfaitement qu'il zozotait, on le sait notamment par les mémoires de Léon Daudet. Mais donc, au moins ça, Louis XVI n'est plus comme ça chez Coppola, il zozote plus, il amincit, il est toujours petit, mais enfin, il n'est pas complètement stupide.
Non, il n'est pas complètement stupide.
Il est plutôt même vers la fin sympathique, parce qu'il se révèle courageux. On a fait un petit pas vers le personnage totalement méconnu et déformé de Louis XVI. Ça, c'est absolument clair. Alors, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est quand même mieux que ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, Marie-Antoinette, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est une actrice très sympathique, mais ça n'évoque pas du tout la reine. Enfin, elle ne traduit pas le caractère, enfin, le tempérament de la reine. C'est une jolie femme, mais c'est pas Marie-Antoinette.
Cette démarche que décrivent tous les témoins du temps, ce long coup, cette démarche qui en imposait partout où elle arrivait, là, on est chez une
c'est Diana, petite...
c'est Diana, c'est l'esprit, exactement ça.
Ouais, c'est un peu Diana. Alors, c'est vrai qu'on est loin de Burke, hein, qui disait elle était comme le soleil, l'étoile du matin. Enfin, bon, lui, il était amoureux, comme presque tous les hommes de son époque étaient amoureux de Marie-Antoinette. Hein,
était comme ça. Bon, elle attirait énormément les hommes. Elle avait une classe absolument phénoménale. Donc, mais qu'est-ce que c'est sinon Coppola? Bon, il y a pas d'histoire, mais ça, tous les films de Sofia Coppola, il y a pas d'histoire, donc ça peut pas surprendre. C'était la même chose avec Virgin Suicide, etc. Mais il y a de très belles images
de Versailles, notamment.
De Versailles, c'est esthétique, c'est de la peinture sur soie. C'est un truc de nana, quoi. C'est un film
mais
de nana.
Mais vous-même, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel personnage vous avez créé, qui croyez-vous connaître dans Marie-Antoinette? Vous en parlez là, mais vous pensez qu'elle était écervelée, qu'elle était intelligente, qu'elle était posée, qu'elle était avisée, qu'elle était ignorante, indifférente, appliquée.
Elle est arrivée extrêmement jeune à la cour. À ce moment-là, elle était donc pas reine du tout. C'est vrai que le Louis XVI, pour différentes raisons, a mis du temps à mûrir, et notamment dans sa vie conjugale. Bon, c'est vrai.
On sait pourquoi. Enfin bon, on peut pas rentrer dans des détails ici trop. Mais dès que le frère de Marie-Antoinette, Joseph, est venu la voir, il a passé 2 heures avec le roi, et très peu de temps après, Marie-Antoinette était enceinte.
Et Sofia Coppola, pour le coup, le dit, ça le montre, cet épisode-là. Bon, c'est vrai que c'était pas forcément facile. C'est une femme qui avait l'habitude du grand air. Bon, donc elle est allée se réfugier dans ce hameau. C'était aussi la mode rousseauiste en France de la campagne, c'était
un peu tout. Mais ce hameau qu'on lui a reproché, c'est formidable.
Ouais,
c'est un hameau où il y avait déjà 12 familles de paysans. C'était un vrai village. Ouais. Et elle avait l'idée. Je lisais hier dans un journal, je l'ai noté, on fait un article dithyrambique, une page entière, sur la ferme du Piqueur au parc de Saint-Cloud. Ferme pédagogique où l'on peut voir. Alors,
bien
le hameau de Marie-Antoinette, c'était une rêverie imbécile, et la ferme du Piqueur, c'est un truc citoyen admirable. Enfin, bon.
Oui, bien sûr.
Sauf que le hameau de Marie-Antoinette et Versailles nous rapportent encore beaucoup d'argent, tandis que la ferme du Piqueur nous en coûte.
Alors, après, c'est vrai qu'elle a été, vous savez, elle adorait la France. C'est vraiment une reine qui aimait énormément la France. Alors qu'elle a été quand même traînée dans la boue, lorsqu'on demande en mariage sa fille, on s'imagine que sa fille, la duchesse d'Angoulême, c'est la seule qui va survivre à la Révolution. On s'imagine qu'elle a épousé ensuite son cousin parce que elle pouvait pas épouser, mais pas du tout. Avant la Révolution, elle dit déjà je ne peux pas quand même donner ma fille au roi de Sicile, parce que quand on a vécu toute sa jeunesse à Versailles, on peut plus s'en éloigner. Elle dit, elle qui vient des, c'est quand même une Habsbourg, elle dit il n'y a absolument rien de comparable dans le monde à la cour de Versailles. Alors qu'elle a été tellement humiliée et insultée à cet endroit-là, elle dit il n'y a absolument rien de comparable. Donc elle aime la France, mais d'un amour absolument sidérant pour quelqu'un qui quand même vient de l'Autriche, etc. Donc elle a peut-être été trop indifférente aux calomnies qui se répandaient sur elle.
Et tout le monde l'était. Les dames de la cour aussi. Et d'ailleurs, Merci dit. Elle devrait faire attention. On en retrouve sur le bureau du roi, on en retrouve jeté le jour de son accouchement, jeté, et elle traite ça en disant c'est l'esprit français. Alors, et sa mère, Marie-Thérèse, qui elle est un politique et qui en a, lui dit ne prenez pas ça à la légère, c'est très grave. Tous ces libelles, tous ces pamphlets, etc.
Ouais, et puis je pense qu'elle est trop au-dessus de ça. Enfin, là, et puis c'est diabolique, c'est vrai, quelque chose de diabolique dans ce destin tourmenté, parce que, enfin, le coup de la brioche. C'est incroyable, quoi. Faut vraiment avoir l'esprit d'une telle bassesse pour lui prêter cette phrase. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Elle peut pas imaginer un instant, quoi, qu'on va croire une chose pareille. Donc c'est vrai qu'elle a été victime de la bêtise, de la bassesse.
C'est-à-dire que la comparaison que je vais faire est totalement dénuée de sens, mais je peux pas me retenir d'en faire un. Quand on voit l'extraordinaire acharnement abject de la foule, pas seulement de la foule d'ailleurs, aussi de certains personnages de la cour, qui va toujours au plus sale, au plus mauvais, au plus blessant, au plus bas, ça me fait penser à la situation actuelle. Et Dieu sait que je n'aime pas le personnage et qu'il ne m'intéresse pas, mais... Je dois dire que l'attitude hier de Villepin, qui explose littéralement, qui dit lâcheté, lâcheté, lâcheté. On sent qu'il y a un moment où le type dit c'est plus possible, quoi, c'est plus possible. Le tableau qu'on est en train de faire de moi est tellement, totalement, radicalement étranger à la vérité, il faut que je le gueule. Et alors il trouve ce truc d'insulter cette espèce de culbuto ridicule de Hollande en lui disant lâcheté, lâcheté. Et là, pour la première fois, je me suis dit, tiens, mais il y a quand même un bonhomme
derrière. Il y a un ressort, oui. Jusqu'à aujourd'hui, 15 heures, là.
Oui. Parce que depuis, oui. On a dit, attendez, camarade, t'es pas là pour faire ton malin. Il faut quand même...
Il a dû y aller, voilà. Le téléphone.
Mais il y a eu un moment où il a laissé sortir quelque chose qui ressemblait à de l'humain. Et je pense que ce qui est extraordinaire, c'est de voir la formidable résistance morale de
Marie de la reine, ouais.
De Louis XV, qui... D'abord, parce qu'ils ne vont pas se commettre.
Ce serait indigne.
Elle crache à la figure.
C'est ça, le film de Coppola est mauvais aussi pour ça. Elle a eu une éducation extraordinaire, peut-être trop rigide. L'étiquette en moins, parce qu'à Vienne, il n'y avait pas l'étiquette versaillaise du tout. C'est ce qui va la gêner en arrivant un peu à Versailles. Mais elle a eu une éducation formidable. Religieuse, morale, qu'elle gardera jusqu'au bout, qu'elle retrouvera dans ses lettres.
On a d'ailleurs
on le voit dans ses écrits, on le voit dans ses confidences à son abbé, qui est pas son confesseur parce que il n'avait pas le droit de lettre, n'étant pas, etc. Bon, mais
on a un auditeur qui nous dit il faut lire une lettre de Marie-Antoinette à son frère.
Bien sûr.
Remarquable, qui se trouve dans un ouvrage superbe, Louis XVI, roi martyr, par l'abbé Augustin de Lassus. Édité en 1916, repris aux éditions Saint-Rémy, oui, une bonne maison d'édition, boîte postale 79 33 410 Cadillac. On trouve les pièces du procès, et cet éditeur nous dit qu'il y a une lettre de Marie-Antoinette. Et c'est vrai que la correspondance de Marie-Antoinette avec sa mère est intéressante, parce qu'on en connaît, ce qui a été publié, ce qui a été rendu accessible, c'est tout à fait passionnant, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout l'espèce de petit oiseau.
C'est pas du tout ça. Elle est lucide, ouais. Mais en même temps, elle est au-dessus de ça, et elle se dit, c'est pas possible. Bon, ça n'est pas vrai.
On parle aussi de l'ouvrage de Louis d'Astier. Vous avez lu beaucoup pour préparer votre
non, votre encore une fois, j'ai voulu avant tout faire œuvre de dramaturge. Je ne me prétends pas un historien de Marie-Antoinette. La seule chose que je puisse dire, c'est que les personnages qui sont dans cette pièce sont tous vrais. Y compris des personnages méconnus.
Alors vous devriez peut-être lire Marie-Antoinette et le complot maçonnique, ça pourrait vous rapprocher
de la thèse
complotiste que je partage avec Alain. Et ça a été réédité en 98 par les éditions du Copiste, nous dit une auditrice, qui pousse la courtoisie jusqu'à nous donner le numéro ISBN. Ce qui est bien utile quand on s'adresse à des libraires qui ne savent pas lire, il y en a encore quelques-uns. C'est 2-913-525-008.
Et il y a un très beau livre qui s'appelle Marie-Antoinette intime de Nefta Webster, qui a été publié en 1957, aux éditions La Palatine, qui est sur ce sujet-là très fort, parce que c'était une spécialiste anglaise des sociétés occultes. Elle avait fait différentes recherches, et c'est en cherchant toute cette tous les ressorts de cette période-là qu'elle a eu envie d'écrire à Marie-Antoinette.
Voilà, évidemment, on n'a pas fait le tour de la question, mais j'espère qu'on vous a donné envie de lire le bouquin d'Alain, qui est, alors, je l'ai lu, celui-là, donc je peux en parler beaucoup, qui est très très bien fait,
bah, qui
très,
est rapide, très vivant, c'est, rapide. C'est dans une collection qui s'appelle
bourré d'informations.
La désinformation autour d'eux, où le fils de Raffard nous a fait récemment un beau désinformation autour de l'esclavage, voilà, et où son père a fait de bonnes choses autour de Jésus et de Marie, etc.
Et puis en rentrant, je vais entreprendre une fouille en règle des mines de ma bibliothèque pour retrouver la tragédie livre que j'ai du mari, que j'ai vraiment envie de lire maintenant. Je sais pas, j'espère que les auditeurs sont
en
disposition d'esprit.
C'est un très beau livre. C'est un très beau livre parce que il a ce talent justement de se dégager, toute proportion gardée, parce que c'est plus fantaisiste. Mais c'est Sacha Guitry. Oui. Non, c'est le travail que fait un Sacha Guitry. C'est-à-dire qu'il a tous les éléments, il a tout, mais il nous fait pas une pièce 19e siècle, poussiéreuse, historique, comme on dit, il y a le roman historique, où généralement c'est pas des romanciers, ils essaient de caser tous les trucs d'histoire, c'est pas des historiens non plus, donc c'est très embêtant. Ça non, il a le matériau, et ce matériau est remanifié et retravaillé, et c'est peut-être plus vrai que les actes même qu'on lirait du procès.
Alors donc, c'est paru ça aussi chez...
Aux éditions de Paris. Alors l'autre, c'est pas aux éditions de Paris, la désinformation, donc tu veux bien que j'en donne les coordonnées.
Oui, absolument.
Alors, la désinformation autour de Marie-Antoinette, c'est à l'atelier Folfer, F-O-L-F-E-R, 11 rue des Récollets, 75 010 Paris, et c'est 18 euros franco. Bien sûr.
Et bien sûr, Primo Derriva même. Yves-Marie, alors cette tragédie s'appelle Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, drame en 5 actes.
Avec une superbe couverture.
Oui.
Qui est très très belle.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est la fameuse peinture de...
Et David.
Oui, c'est ça, le dessin de David sur la peinture de Madame
Vigée-Lebrun.
Madame Vigée-Lebrun. Ouais.
Est-ce qu'il y a une chance que ce soit monté un jour dans un théâtre?
Alors, il y a une vingtaine de personnages dans cette pièce.
Ça pourrait être la télévision. Mais, pourrait le faire.
Ah oui, alors c'est très cinématographique.
C'est très.
Alors, il y a eu une émission, une lecture de quelques extraits, faite par Anne Brassier.
Oui, parce que j'allais dire justement que Anne Brassier poursuit ce que femme veut, Dieu le veut, donc ça finira par arriver. Le projet de faire donner des pièces radiophoniques sur Radio Courtoisie.
Pourquoi c'est pas, déjà produit. Avec beaucoup de succès.
Ça serait un beau film et une belle émission télévisée.
Ouais. Quand est-ce que vous signez quelque part, Yves-Marie?
Oui, je signe ce livre. Alors attendez, c'est samedi.
Oui, dites-nous ça.
Samedi 24 juin, de 15h à 18h30. Yves-Marie Adeline dédicacera Marie-Antoinette à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Le 13 juillet, à la même librairie, en même temps que Jean Pax Méfray, qui nous fera une belle surprise ce 13 juillet.
Je le recevrai d'ailleurs à ce moment-là. Et il y a effectivement une belle très très belle surprise en préparation. Puis ça ira très bien. Le Hussard bleu et talon rouge, Roger Nimier, Hussard bleu et talon rouge, d'Alain Sander, tu le présentes quelque part?
Non.
Bon, faudra qu'on en reparle. Il vient de paraître.
Il vient de paraître.
De Paris.
C'est pour ça que je l'ai apporté.
Et je signale aux auditeurs qu'il y a une vieille passion quasi d'identité entre Sanders et Sanders. Sanders et Nimier.
Et Sainte-Anne aussi.
Et Sainte-Anne aussi, parce que tout ça n'étant qu'un. Et ben voilà les quintuplets encore.
Dans Nimier, il y a le personnage de François Sanders et de François Sainte-Anne qui sont ses doubles.
Mais bien sûr.
L'un est un pilier de rugby qui danse mal, l'autre est un page d'ailier qui danse bien. Et c'est le rêve de tout homme.
Alors Alain avait fait un livre que j'avais adoré, qui s'appelait Le Hussard Blé. J'avais beaucoup, beaucoup
qui est un 20 ans après. C'est Le Hussard Bleu, tous les personnages, 20 ans après.
Et maintenant, c'est Hussard Bleu et Talon Rouge, c'est une... C'est pas une biographie, c'est une...
Non, c'est une étude de l'œuvre. Avec la difficulté d'être un talon rouge un peu dandy dans les années 45. Parce que Brumel ou Dorset, c'était plus facile d'être dandy. Faire le dandy ou le provoquant ou le talon rouge ou le hussard bleu en 45, ça pouvait être très dangereux.
Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Je vais vous demander de quitter les lieux.
Par la force des baïonnettes.
Car nous avons d'autres invités.
De jouer aux chaises musicales.
Le docteur Dor à la surprise générale. Qui pour une fois vient dans cette émission.
On a laissé tous les messages, Serge.
Mais lisez-en quelques-uns alors.
Je voudrais que M. Adeline ne
Non, on n'aura pas le temps.
C'est-à-dire qu'on a 20 minutes pour 4 invités.
On n'aura pas le temps. C'est pas la peine. Non.
Donc
questions. Non, ce sont des remarques, des réflexions.
Si on répond pas, c'est pas la peine.
Ça dépend. Il peut y avoir des avis, des opinions. Non, elle est vexée.
Non, je trouve que c'est pas bien de ne pas répondre direct. Donc, tant pis, vaut mieux rien du tout.
Est-ce que le marquis a le temps d'en placer une sur la presse du 18e pendant qu'on fait les chaises musicales?
Oui, 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 dites-nous ce que vous avez
à dire. Vous pouvez résumer.
Pas nous lire les questions.
Vous pouvez résumer, on y reviendra.
Eh bien, alors, je vais vous parler d'un journal qui s'intitule Le 18e du mois, qui écrit en toutes lettres dans son bandeau. Le 18e du mois est un journal d'information sur le 18e arrondissement.
De Paris?
Ah oui, bien sûr, indépendant de toute organisation politique, religieuse ou syndicale. Il est édité par l'association des Amis du 18e du mois. Moi, j'ai eu le mauvais goût de trouver qu'un SDF qui était porté au pinacle dans ce journal enquiquinait plein de gens, et il y a eu des courriers pour dire que oui, ce type était peut-être sympathique, mais en même temps, il faisait quand même pas mal de dégâts dans le quartier. Et moi, j'ai fini par écrire une deuxième fois, et là, évidemment, ma lettre a été tronquée, et ça se termine de la façon... Alors, je dis, ce type insulte les gens qui passent, hein, c'est pas... Et ça se termine comme ça. Voilà, il était devant chez moi, devant l'église Sainte-Hélène, alors je le rappelle, etc. Donc je le connais bien, le type qui est parti 100 mètres plus loin. Et note de la rédaction après ma lettre, où je dis que ce type est pas très sympathique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme se désocialise, se met à dormir dans la rue et refuse l'aide des institutions? Il y a sans doute des raisons très diverses et qui peut s'arroger le droit d'en juger. Alors ce type se fait appeler Chakala. Chakala est un clochard plus propre que beaucoup d'autres, un clochard avec sa truculence, son pittoresque, qui peuvent intéresser, voire séduire, avec aussi sa grossièreté. Quand il dit à une dame âgée qui pense avec son chien, ton chien est pourri et toi aussi...
C'est très parisien.
Avec le refus de règles élémentaires de socialité. On comprend que certains en soient choqués, mais c'est comme ça. Répondre par la condamnation ou l'exclusion, c'est une réponse un peu courte.
Alors, notre marquis est visiblement un déçu de la presse de gauche dans le 18e. Est-ce qu'il va jusqu'à recommander le blog de notre ami Cyril Bozonnet?
Ah oui, forcément, bien
qu'on
sûr.
Peut trouver facilement, donc en faisant Cyril Bozonnet sur Google.
Et alors, je vais vous dire une autre toute petite chose dans ce même journal qui, évidemment, n'est pas de gauche, mais ne parle jamais des gens qui ne sont pas à gauche. Bon, Michou est mon ami, c'est une des stars de la butte. Il n'y a jamais une ligne sur lui, mais là, ils sont bien obligés d'en parler parce que la cuvée du Clos Montmartre de cette année va porter pour la première fois le nom d'un vivant. Ça va être Michou et non pas Toulouse-Lautrec ou autre chose, parce qu'ils sont pas fous, ils savent qu'ils auront plus de télévision que si c'était la cuvée Toulouse-Lautrec. Et ça a décoiffé, paraît-il, monsieur Daniel Vaillant. Alors, il y a un petit, pour une fois, il y a une information dans ce journal qui n'est pas de gauche. Je vous lis pas tout. Mais voilà quand même la description de Michou. Michou est un personnage spectaculaire, bien connu à Montmartre, avec son brushing blond, ses costumes bleus et ses énormes lunettes bleues, patron du cabaret de transformer chez Michou, rue des Martyrs. C'est à ce titre qu'il a été décoré de la Légion d'honneur en janvier 2005. Et ils oublient de dire que ça fait des années que maintenant ça se sait, mais qui vole au secours de toutes les dames âgées, y compris les messieurs, des maisons de retraite ou même des gens qui sont seuls dans le 18e
et que ça et lui c'est coûte... à ce titre-là qu'il a eu
la Légion d'honneur, évidemment, voilà. Oui. Donc bon, bravo, bon, le 18e bon. Du mois, laissez tomber, regardez le blog de Cyril Bozonnet.
C'est le 36e du Alors, dessous, le 18e du mois.
Puisque Victoria n'a pas voulu lire les questions, je vais le faire, moi.
Moi, je n'ai pas voulu, et puis s'il n'est plus là...
Mais ce n'est pas des questions. Les interventions. Les minutes du procès de Marie-Antoinette ont-elles été publiées? Oui, on a répondu, je viens de répondre à l'instant, en donnant même les précisions utiles. Je collectionne tous les livres sur Marie-Antoinette, nous dit une auditrice. Je suis assez ferré sur la question. Personne n'a relevé que dans le film, la princesse qui accouche d'un enfant est annoncée comme la comtesse de Provence, femme de Provence, futur Louis XVIII, qui n'a jamais vu de cette tendance. Mais en fait, c'est la comtesse d'Artois qui a accouché du futur duc d'Angoulême, Charles X, et qui épousera sa cousine fille aînée
de
Louis XVI.
Cette personne dit « Je suis ferré de Marie-Antoinette oui. ». C'est le ferré de la reine.
C'est le ferré de la reine, exactement. Alors, là, il y a non pas une question, mais une remarque. Si ce monsieur avait raison et que l'on ne puisse pas voir la reine seule, comment expliquer que le cardinal de Rohan ne se soit pas étonné qu'elle lui accorda un rendez-vous secret? Parce qu'on a la réponse, c'est que Rohan était visiblement un imbécile.
Voilà.
Marie-Antoinette descendait par son père de monsieur le duc d'Orléans, frère de Louis XIV. La famille d'Orléans aujourd'hui descend à la fois de Marie-Caroline, reine de Naples, sœur de Marie-Antoinette, et donc de Philippe Égalité.
Ben oui.
Ça me paraît un peu bizarre, cette chose. Mais oui, bon, de toute façon, avec les Orléans, il ne faut jamais s'étonner de rien. Je possède un manuscrit d'un de nos ancêtres qui parle de sociétés secrètes qui complotaient contre Louis XVI et la royauté. Il était contemporain de Louis XVI, nous dit une auditrice. Un auditeur, Marie-Antoinette, a été victime de l'interprétation qu'a fait la gauche de l'époque, qui penchait plutôt pour le roi de Prusse, alors que Louis XV s'est rendu compte que le nouveau danger n'était plus l'Autriche, mais la Prusse, et que le mariage du dauphin avec la fille de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, et du duc de Lorraine, a concrétisé ce retournement des alliances, ce que n'a pas compris le bon peuple. J'ai acheté, nous dit un auditeur, un DVD de la série La caméra explore le temps sur le procès et la mort de Marie-Antoinette. C'est une œuvre remarquable qui prêche plutôt pour la royauté. Oui, je me souviens de cette magnifique série de La caméra explore le temps et notamment de ce film sur Marie-Antoinette qui était, enfin, le procès qui était tout à fait passionnant. Bien.
Vous voyez quand vous voulez que vous le trouvez le temps.
Non, c'est pas trouver le temps. C'est, il n'y a pas besoin que Yves-Marie soit là pour répondre, puisque c'est pas des questions. Monsieur le docteur Dor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez quelque chose à nous dire. Je vous donne la parole, mais je vous demande vraiment d'être économe de notre temps et du vôtre.
Entendu. Alors, il y aura parce qu'il y a des choses intéressantes aussi qui suivent. Je voudrais dire deux choses, le plus court possible. Alors, la première, peut-être des gens sont déjà avertis, mais nous avons notre 20e anniversaire cette année, en fin d'année. Et le 18 novembre, c'est un samedi à 14h30, il y a un rendez-vous pris dans toute la France. Là, vous me direz, monsieur, vous êtes bien entreprenant, je ne sais pas. Mais nous voudrions, au fond, que ce jour-là, on puisse prier dans des lieux fréquentés, l'après-midi, en début d'après-midi, donc ce samedi 18 novembre. L'idée est du colonel de Propignan, je la trouve excellente. Plutôt que de faire une réunion à Paris, une réunion centrale, où les gens viendraient plus ou moins, là, les gens pourront prier sur place. Donc, je dirais, c'est pour nous l'occasion peut-être de nous faire connaître et surtout de répandre cette prière pour nos petits qui meurent en rang serré. Alors, je conjure tous ceux qui m'écoutent, soit de venir à ces réunions un peu partout, ville ou village, n'est-ce pas, et aussi, nous cherchons des chefs de groupe, des gens qui veulent bien. Nous manquons beaucoup de chefs de groupe dans la région Est, Nancy, Strasbourg et tout ça. Voilà, alors une deuxième partie qui sera aussi courte, mais je pense intéressante. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de complot, et c'est ce dont je voudrais vous parler en quelques minutes. C'est très court. Je suis l'éditorialiste d'un petit journal que vous connaissez peut-être qui s'appelle SOS Tout Petit Actualité et enfin c'est Luc Perrel qui s'occupe de ce petit journal. Nous avons des abonnés et je suis donc l'éditorialiste et le prochain éditorial sera fait sur le complot. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien j'ai écrit aussi, excusez-moi de me citer, mais j'ai écrit un article dans le livre blanc sur l'avortement de 30 ans ça suffit puisqu'il y a eu une manifestation national le 22 janvier dernier entre la République et Opéra et donc a paru un livre blanc à ce moment-là sur l'avortement et j'ai écrit un article sur le sujet contraception, avortement et idéologie et j'ai beaucoup réfléchi à l'avortement naturellement et que de fois je me suis posé la question mais je dirais il y a assez longtemps que je l'ai résolu, peut-être pas complètement, mais là, je crois pouvoir vous dire quand même qu'on touche un peu à la fine pointe. C'est-à-dire que à quoi bon tuer nos enfants? Vous savez que c'est de l'ordre, non pas du milliard, mais c'est de l'ordre de milliards au pluriel. Puisque en 97, le planning familial annonçait, presque comme on annonce un tableau de chasse, enfin j'avoue que ça donne froid dans le dos, il ferait ça assez... après tout, ils étaient même... Je ne dis pas heureux de le faire, mais constater au moins, n'est-ce pas, 1 milliard de morts en 20 ans, puisqu'on compte actuellement 50 à 60 millions d'avortements officiels, si on peut dire, dans le monde. Mais vous savez que la contraception, qui est actuellement de plus en plus employée, de plus en plus omniprésente, de plus en plus abortive, fait multiplier ce chiffre par 5 ou 6. C'est-à-dire que si on tue par exemple 50 ou 60 millions d'enfants par an, il faut multiplier au moins le chiffre par 5 ou 6, c'est-à-dire un quart ou 300 millions d'enfants par an. Et vous voyez que le milliard est vite atteint. Donc je dirais, on peut penser, on peut croire vraiment sans... Alors ce serait vraiment trop naïf de penser que tout ça arrive un peu par hasard, que ce n'est pas concerté, n'est-ce pas, qu'il y a tout ce planning, c'est évidemment... À l'ONU, il y a des... il y a des subsides, la France paye le planning. Enfin, je dirais, ce milliard serait comme ça venu... Enfin, quel est... quelle est l'explication? Et je trouve que là c'est un hommage au pape. Parler de culte, le culture de mort, c'est déjà parler du complot. Car quand on parle de culture, on parle d'un ensemble d'idées, un ensemble d'entente de sur un sujet, n'est-ce pas? Et là, véritablement, il a mis le doigt sur la plaie, oui, si je puis dire. C'est remarquable.
Je trouve que c'est
son plus grand titre de gloire.
Mais ça, voilà. Cette histoire du complot, il faudrait qu'on approfondisse et qu'on y
voilà. Alors, je vais vous donner la clé. Je crois pouvoir vous donner la clé. On m'a dit c'est l'individualisme. C'est un ancien conseiller d'État. Je l'ai dit même ici au micro. Je pense que c'est en grande partie vrai. Mais l'individualisme, je dirais, elle n'est pas forcément dirigée sur des milliards de morts, ça me semble. L'autre jour, j'ai rencontré à Radio Courtoisie Bernard, j'ai oublié son nom, enfin peu importe, et il me dit, je pense que c'est plutôt le déisme ou le panthéisme ou le polythéisme. Mais du temps du déisme, du panthéisme ou du polythéisme, je pense à la Syrie, 11e siècle avant Jésus-Christ, je pense à Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ.
Je suis obligé de vous interrompre.
J'ai presque fini, croyez-moi. Eh bien, là encore, ce n'est pas suffisant. Alors, quelle est la véritable chose? Je crois que c'est là. Alors là, je cite, c'est le cœur de ce que je voudrais vous dire. C'est l'inverse de ce que disait Saint-Irénée. Saint-Irénée a prononcé peut-être une des phrases les plus intéressantes et les plus extraordinaires qu'ait pu prononcer un saint, car il était saint. Vous savez qu'il était de Smyrne et qu'il a été évêque de Lyon. Il a dit ceci, vous connaissez cette phrase, elle est très connue. Le Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Et bien que je pense que la clé du complot se trouve dans ceci, c'est le refus de l'incarnation. Non pas tellement le refus de Dieu, d'un Dieu qui serait vague ou lointain, ça c'est les gêne pas beaucoup. Il y avait l'être suprême au moment où la déesse raison, tout ce que vous voulez, ça c'est les gêne pas beaucoup, non. Un Dieu qui nous aime, qui serait proche, ça il ne supporte pas. Et l'incarnation, c'est au sens large.
D'en faire et donc, un sujet voilà. De conversation plus long, parce que là on peut voilà. Pas.
Écoutez,
il y a plein d'autres choses à dire.
Abonnez-vous alors à notre petit journal, vous en saurez davantage. Voilà. Je pense que plus personne ne peut dire que le complot n'existe pas. Il est évident.
Merci, docteur.
Merci.
Je me tourne maintenant vers Bernard Zeller, qui est le président de l'association des amis du général Raoul Salan. Et je vous ai proposé de venir présenter cette association. Vous aviez organisé récemment une messe.
Oui.
On a été quand même frappé par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le souvenir de Raoul Salan est en train de s'éteindre petit à petit?
Oui, c'est sans doute vrai, mais vous savez peut-être aussi que les années précédentes, les messes avaient lieu à la chapelle du Val-de-Grâce, et nous avons été interdits de chapelle du Val-de-Grâce.
Tiens,
oui. Motif de... Général Raoul Salan. La peur, ou le, je ne sais pas, le médecin en chef, le médecin général, pardon, qui commandait, nous a interdit donc de célébrer la messe au Val-de-Grâce. Ce qui fait que nous avons été une année sans pouvoir célébrer de messe, et grâce à Bernard Billot que vous connaissez, qui a écrit D'un Chirac l'autre, grâce oui. à Bernard Billot, nous avons pu faire une messe à Saint-Thomas-d'Aquin. Bon, ceci étant, c'est sûr également que le souvenir du général Salan, quoi, les compagnons, etc., il y en a moins, hein, c'est évident. Donc en fait, l'association dont je m'occupe, qui a été créée en 1999, a un but qui est plutôt un but historique maintenant. C'est-à-dire, son but, c'est de rendre au général Salan la juste place qu'il devrait avoir dans l'histoire de France. Si la France était la France qu'on aime, je pense qu'il y aurait dans les villages, dans les villes, des rues et des places du général Salan et peut-être même du maréchal Salan. Parce que sans faire d'hyperbole, hein, général Salan a été commandant-chef en Indochine, il a été commandant-chef en Algérie, délégué général en Algérie. Bon, au préalable, il avait eu des campagnes extraordinaires. Hein. Et donc, voilà à quoi nous nous employons, c'est-à-dire à faire connaître le général Salan. Alors pour ça, en fait, nous avons un instrument qui est vraiment qui touche énormément de monde, beaucoup plus qu'une petite association où il y a 300 ou 400 membres et qui s'envoie un bulletin en interne, si je peux dire. Nous avons un site internet qui est extrêmement riche. hein, qui est bien sûr donne la biographie du général Salan dans les détails, qui donne également énormément de documents, ça vous intéresserait, parce qu'il y a par exemple le procès verbal de l'interrogatoire de Yacef Saadi.
Ah, oui.
Il y a les écoutes téléphoniques des préfets pendant le 13 mai 58. Il y a tout un tas de documents exceptionnels parce que nous avons accès aux archives du général Salan. Il y a 14 caisses. Le général Salan, c'était réglo. Mm-hmm. Et donc, il y a 14 caisses qui sont exploitées par des historiens, excusez-moi. Et donc, il y a une documentation extraordinaire, en particulier sur la guerre d'Indochine. Hein. Et depuis 1945, puisqu'il a négocié avec les Chinois le retrait des troupes chinoises du Tonkin dès cette époque-là.
Alors, il faudrait que vous donniez le site.
Alors, l'adresse du site, c'est www.salan.asso.fr.
Et quelles conditions faut-il remplir pour être admis comme membre de cette association?
Eh bien, il faut se présenter comme candidat, mais enfin en général on accepte les candidats qui se présentent. Et on peut le faire d'ailleurs en mettant un petit message sur le site en question. L'adresse est info@salan.asso.fr. Et donc là, on répond et il n'y a aucun problème. Alors, juste une chose, je ne veux pas monopoliser le peu de temps qui reste. Juste une chose, on a rajouté à peu près une cinquantaine de biographies de gens qui ont connu Salan ou combattu, aussi bien Yacef Saadi que Chérif Sidkara, que Georges Mandel, et puis le général Chassin, etc., etc. Et l'autre jour, il y avait une biographie de Léon Delbecq. L'autre jour, il y a eu un téléfilm, je ne regarde pas la télévision, mais il y a eu un téléfilm qui s'appelait, paraît-il, Le Grand Charles. Et au deuxième tome, on parlait beaucoup de Léon Delbecq. Personne, et je regardais la fréquentation du site, elle est montée à 700 dans la soirée. Les gens sont précipités pour voir qui était Léon Delbecq. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et vraiment avec les sites...
C'est un outil de connaissance historique.
Oui, les sites internet peuvent permettre d'aller contre tout ce qu'on connaît par ailleurs.
Donc je vous demandais de répéter l'adresse du site, c'est
www.salan.asso.fr. Et donc l'adresse, si on veut envoyer un message, et en particulier, on accueillera avec volontiers de nouveaux membres. Il y a un aspect historique, hein, je dis bien, ce n'est pas un aspect de vieux copains qui se retrouvent. Il y a ça aussi, éventuellement. info@salan.asso.fr.
Alors vous-même, Zeller, vous êtes le neveu du général.
Vous avez raison, vous connaissez bien l'un qui est le général Henri Zeller, qui vous a décoré quand vous étiez...
Enfin, qui a décoré mon père
Et moi, c'est André Zeller, donc j'ai connu le général Salan à Tulle, quoi, quand j'allais rendre visite à mon père.
Voilà. Donc ça fait de vous effectivement un dépositaire de la mémoire du général Salan. Merci d'être venu nous voir si rapidement. Pardon de vous donner aussi peu la parole, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu bousculé ce soir. Monsieur Zeller.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Asseyez-vous, cher ami. C'est un homme qui veut encore grandir, visiblement. Vincent Lapara, il veut pas s'asseoir.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Oui, toujours.
Et vous avez bien raison.
Oui, absolument. Nous recevons alors un personnage rarissime sur nos antennes, qui est mon excellent camarade et doublement compatriote Dounaïev.
Je crois que tu avais été...
Bonsoir Serge,
tu avais été abattu.
Vous n'êtes pas remarquable, mais...
Moi, j'ai été une très bonne pour écrire.
Comprendre tout de même.
J'ai entendu que tu avais été abattu récemment, non?
C'est une fausse information.
Au ciel.
Moi, j'ai entendu qu'il y avait un Dounaïev qui avait... Je crois que tout ce bruit fait autour de mon décès est excessif.
Pardon. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour avoir une voix comme ça? Tu as encore pris un bain glacé dans la Neva?
C'est un petit peu ça, puis les chouilles froides, trop d'efforts, petit coup de courant d'air, peut-être une dessiccation ou une déshydratation anticipée.
Ah, ça c'est fait, je crois que c'est ça.
Pourtant, je sais si je lutte de ce côté-là tant que je peux. Mais ma foi, on n'est jamais à l'abri d'une imprudence.
Avec plus d'énergie que de succès.
Il y a 3 pochettes de CD en couleur très belle.
Alors, justement, voilà pourquoi j'ai demandé à Philippe et à Vincent de venir, parce qu'ils ont fait un truc vraiment magnifique. Une petite maison d'édition qui fait des livrets CD.
ça.
Voilà, c'est exact. C'est-à-dire qu'à partir de documents historiques et qui parfois ont déjà été édités, on a réédité des livrets CD, à savoir des CD accompagnés d'une documentation, d'une illustration et d'un commentaire avisé, autorisé, de qualité, donnant une valeur ajoutée à ce CD qui par lui-même est déjà d'une qualité technique, d'une qualité artistique remarquable. On va peut-être en écouter un petit peu.
Et oui, on peut écouter de la musique, Franck, 2 minutes peut-être, juste pour montrer la qualité, effectivement. Ça, c'est la marche du premier consul de Paisiello, et c'est tiré du disque, du CD, du livret CD intitulé Écho de l'épopée impériale, choix de musique civile et militaire du consulat du 1er et du 2 empire,
interprété par la musique de la garde républicaine de Paris, qui est en soi une référence qui n'a jamais failli à sa réputation.
Et alors la suite, naturellement, c'est Napoléon et la garde impériale. Alors,
Napoléon et la garde impériale est un livret CD aussi, qui lui est une évocation historique de l'épopée impériale, avec une partie lue et une partie musicale. Le texte est tendu au départ au commandant Henri Lachouc, qui était un grand marquis, l'a bien connu peut-être.
C'est mon voisin à Montmartre.
Ah ben,
peut pas. Côté de la Maison Rose.
Voilà. D'autant plus qu'il me semble qu'il a fait un musée là-bas.
Oui.
Et
sa maison est classée complètement.
Le commandant Lachoux, qui était un spécialiste de l'épopée impériale et qui s'est donc efforcé de réaliser ce commentaire qui a été lu à l'époque et sur un CD où alternent les musiques et les commentaires.
Les commentaires. Et puis il y a un troisième livret CD qui est Les Lansquenets, chants guerriers populaires et paysans de la Renaissance, laquelle n'existe pas, je vous signale, si j'en crois Jacques Hers. Ah non, c'est le Moyen-Âge qui n'existe pas. Pardon.
Oh, je sais savoir ce qui existe, ce qui n'existe pas. Nous plongeons dans l'étude révisionniste.
Eh ben voilà, c'est ça. Gare en révisionniste. C'est très vilaine chose. Contrairement à d'autres choses, le Moyen-Âge n'existe pas. Hein, ou conformément. Bon, enfin,
alors là, ce sont des chants interprétés avec accompagnement musical par le chœur Botto Lucas, qui était une réputation certaine en Allemagne il y a quelques décennies, et qui n'avait pas été édité en France depuis environ 30 ou 35 ans. Et c'est assez guiré, c'est joyeux, c'est enthousiaste, ça réveille.
Et il y a des textes bilingues, ce qui permet de démontrer ce fameux principe qui est trop ignoré, où on dit l'allemand est une langue gutturale, alors que le français est une langue douce et tout, c'est pas vrai, parce que il y a par exemple un chant qui s'appelle en allemand Wilde Gesellen, ce qui est très... alors qu'en français c'est Kaya Sauvage.
Ouais.
Hein, on voit bien quand même là. Où est le guttural là-dedans?
On est là pour tout niquer.
Wenn die Langs nicht trinken.
Évidemment, nous on sort sa culture de Bâle.
Alors il y a une chanson qui est spécialement destinée à Philippe, je crois, c'est Wenn die Langs nicht trinken, quand boivent les Lansquenets.
Ben oui.
C'est une jolie chanson. Il y a Trum Trum Terum Tum Tum.
Ah oui, ça.
Donc, il y a probablement assez les paroles, non?
Les paroles sont assez simples à comprendre. C'est déjà ça.
C'est presque aussi simple.
Alors, le livret comporte effectivement un aspect historique sur ce qui a été l'épopée des Lansquenets, à savoir la création de ce corps de mercenaires et sur leur vocation. Et sous la plume de Philippe Lamarck, historien réputé, qui a d'ailleurs eu l'honneur lui aussi de causer dans le poste sur 15,6 MHz, n'est-ce pas, Victoria?
Pour les Parisiens.
Pour les Parisiens. Et la préface de Philippe Lamarck est donc suivie du texte intégral des Ces Chants de Lansquenet en version française et en version allemande originelle.
Ouais. Et c'est superbe. Il y a de très très belles illustrations qui sont des gravures d'époque, des gravures anciennes.
Nous avons aussi une maquettiste de très grand talent qui s'appelle Catherine Barnet.
Oui, je crois connaître cette personne.
C'est possible.
Je crois savoir qu'elle a une certaine réputation dans le milieu de la maquette.
C'est possible.
Qu'elle fait preuve d'un...
Alors c'est...
On la salue si elle nous écoute.
Alors, c'est possible aussi. Ces livres et disques sont donc disponibles dans quelques bonnes bibliothèques parisiennes et de province aussi.
Librairie,
il faut savoir que la société à Tribord est une
librairie. Je dis bibliothèque, c'est un faux ami. Library. Bookseller, c'est ça.
Извините.
Не не за что.
Bon, хорошо, спасибо.
Не за что.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et de la francophonie. Or donc, nous avons quelques dépôts parisiens et en province. Il faut savoir que la société à Tribord est une société qui est jeune, qui est composée actuellement que de bénévoles, qui ont par ailleurs des occupations professionnelles parfois prenantes, des occupations familiales qui le sont aussi.
Est-ce que vous avez un dépôt à la librairie Murat, 122 boulevard Murat, que j'ai oublié de citer tout à l'heure? Là, ça m'arrange bien de vous poser la question en ces termes.
C'est, monsieur Goffin, c'est une excellente question.
C'est à deux pas d'ici.
Je vous remercie de me l'avoir posé.
Savoir.
À ma connaissance, non, mais je ne suis pas non plus au fait de tout ce qui se passe dans l'entrée. Auquel cas, nous y remédierons sans aucun problème. On est librairie du Ken, on est librairie Petit Pont, enfin la rue du Vieux, on est chez Dourssou, on est enfin on a quand même la Licorne Bleue doit aussi faire partie de nos clients. On est situé donc en vente de détail dans diverses librairies amis classiques. Nous effectuons l'essentiel de notre vente actuellement par correspondance. Et nous avons une adresse qui est une adresse postale. Voilà. Oui, monsieur le marquis.
Eh bien, c'est ça, j'allais la donner, l'adresse.
Faites seulement.
Voilà, à Tribord, 44 rue Monges, 75005, Paris.
Alors Tribord, c'est une adresse postale, ça n'est pas une boutique où on peut disposer de nos articles.
À Tribord, il faut dire, ça veut dire, Tribord, c'est à droite. Pour ceux qui l'ignoreraient, je le signale.
Alors,
je l'appuie par une...
Non, n'exagérons rien. Lorsqu'on est sur un navire,
oui,
et qu'on est à l'arrière du navire, voilà, on regarde vers l'avant, voilà.
Bâbord,
c'est du côté droit, bon, effectivement. Bâbord, c'est à gauche, oui. Tribord, c'est à droite. A contrario, si tu regardes, si tu es passéiste,
oui,
et que tu es assis à l'avant, à la proue de ton navire, et que tu regardes l'arrière, Tribord, c'est à ta main gauche.
Tu connais l'histoire célèbre du second qui voyage avec le même commandant depuis des années, des années, des années. Ils ont affronté les pires tempêtes sur tous les océans du monde. Et chaque fois qu'il y a un gros coup de tabac, au plus fort de la tempête, le second voit le capitaine qui tire un petit feuillet de sa poche et qui l'ouvre comme ça, qui regarde et qui le range et qui prend des décisions qui sauvent le navire. Et ça intrigue beaucoup ce second qui finit par devenir obsédé par ce papier. Et un jour, profitant du sommeil du commandant, il tire le papier de la poche et il lit ce qui avait écrit dessus. Et il y a bâbord à gauche, tribord à droite.
Voilà. Le moyen mémomatique, c'est de penser au mot batterie.
Est-ce qu'on peut avoir encore un petit exemple, un petit exemple, peut-être les Lansquenets, non, c'était prévu, voilà.
Wilde Geselle vom Sturm mit durchweht, Fürsten in Lumpen und Lohnen. Ziehen wir dahin, bis das Herz uns steht, wehrlos bis unter dem Boden. Herzen und helfende Hand sind ja so selten, so selten. Weite uns Himmels auf staubiger Straße, immer nur hurtig und bunter. Ob uns der eigene Bruder vergaß, uns geht die Sonne nicht unter.
Merci.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie et on s'excuse humblement du blanc qui n'est pas de notre fait.
Bon, on se plaint pas qu'il y ait des blancs quand même. Et vous avez d'autres projets de...
Les projets sont très nombreux.
Alors, parlez bien.
Dans le domaine toujours, bien sûr, historique et culturel, il faut en fait gérer un certain nombre de choses, en particulier les droits de certaines œuvres. Mmh. Pour lesquels on n'est pas toujours certain de pouvoir avancer autrement que sur qu'en marchant sur des œufs, parce que les documents sonores, les archives sonores que nous avons n'ont pas été toutes accompagnées des contrats éventuels qui auraient pu être établis à l'époque où les premières éditions ont eu lieu, où les premiers enregistrements ont eu lieu. Ceci mis à part, dans le domaine historique, nous avons effectivement sous le coude ce qui est relatif peut-être à la Révolution irlandaise. On a l'ancien régime russe. Nous avons des contes du lundi de Daudet. Nous avons un certain nombre de choses qui, tôt ou tard, peuvent apparaître sur les étagères. Alors pour cela, et pour les gens qui seraient intéressés, je vous rappelle ce que disait le marquis il y a quelques instants, à savoir qu'on peut nous écrire à Tribord, 44 rue Monge, 7505 Paris, je précise adresse postale, et pour les gens qui sont rétifs à l'emploi de l'enveloppe, nous n'avons pas encore de site internet, ça va venir, mais sinon on a quand même une ligne téléphonique avec un répondeur qui est relevé de temps en temps, qui est le 01 34 85 14 22, 01 34 85 14 22, vous téléphonez, vous dites voilà, je m'appelle Serge de Becquetch, je souhaiterais recevoir une documentation ou la liste de vos dépôts sur Paris, et donnez-moi votre adresse et on vous envoie par retour l'information.
Merci mon cher Philippe. Vincent, vous n'êtes pas trop fatigué pour les interminables propos que vous avez tenus.
Tribord, ça voulait dire à droite.
Bon, bah, c'est bien, vous n'avez pas perdu votre journée. Merci beaucoup. Victoria, quelque chose à dire?
Je rappelle le titre du livre d'Alain Sanders, La désinformation autour de Marie-Antoinette. C'est à l'atelier FOL, F-O-L apostrophe FER, 11 rue des Récollets, Paris 10e, et ça coûte 18 euros franco.
Et je signale que le 40e anniversaire du sacrifice du lieutenant Roger de Gueldre, exécuté au fort d'Ivry le 6 juillet 62 pour crime de fidélité à la parole donnée, du sergent Albert Dovcar et de Claude Pixt, exécuté le 7 juin 62 au trou d'enfer, sera marqué le samedi 1er juillet 2006 à Versailles par une messe à 10h à l'église Notre-Dame des Armées, 1 impasse des gendarmes, et à 11h une réunion au cimetière des Gonards, prière et dépôt de gerbes sur la tombe du lieutenant de Gueldre. C'est l'invitation des anciens officiers, sous-officiers et soldats du 1er REC, 1er REP et 2e REP, et de la famille et des amis de Gueltre, d'Obecar et Pixt, et du Cercle National des Combattants. Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 juin 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.